Merci d'être venu à toutes ces personnes aussi nombreuses que je puisse même pas les compter. Non, c'est cool, c'est vrai que c'est un investissement. On a 12 séances, il faut prendre le temps. C'est un parcours, mais vous allez voir, en tout cas, ce que Mathilde et moi on a vécu, c'est qu'une fois qu'il n'y avait plus les 12 séances, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a du temps dans notre semaine et tout, et on s'est dit, punaise, bah, ça fait vide. On aimerait être avec les autres et tout, on aimerait continuer. Et tous les gens de la formation, ils disaient, oh, quand c'est qu'on se revoit et tout. Et c'est vrai que ça, c'est une sorte d'aventure, comme ça, un parcours qu'on fait ensemble. Alors, bien sûr, on a des affinités avec les autres ou pas et tout, mais en tout cas, c'est vrai que c'est important de libérer, de prendre du temps à part pour ça. Et puis Dieu va faire les choses, quoi. C'est quand on prend du temps à part pour quelque chose qu'on laisse de l'espace pour que Dieu agisse. Donc la dernière fois, on avait vu notre part, le thème, notre part, tout ce qui nous revient, tout ce que Dieu attend de nous. Et on va voir aujourd'hui le thème de l'endettement. Alors la page, c'est une très bonne question. C'est le chapitre 4, exactement. Le numéro des pages est pas dans l'ordre, il reprend chaque fois le... Pardon? Ouais, c'est ça. C'est que ça reprend chaque fois le compte à zéro dans chaque chapitre. Donc c'est le chapitre 4, l'endettement. Et du coup, on va voir ce sujet ce soir. On a parlé dans les différentes séances. Vous vous souvenez qu'il y a 2350 versets en fait qui ont. C'est une petite annonce que je vous fais. Il y a un livre qui a été édité sur ça, avec tout répertorié dans le bouquin. Donc, si ça vous intéresse, ce livre-là, il y a quelqu'un de la formation qui m'a dit, ah tiens, regarde, il y a même un PDF qui est dispo pour ça. Donc, vous avez tous les versets. Hello à ceux qui arrivent. Donc, ça, c'est la première annonce. Donc, ce livre, enfin, ce résumé des 2350 versets, je peux vous donner le document si vous le voulez. Et si ça vous intéresse. Et la deuxième annonce, donc avant de commencer la conférence, j'allais dire la soirée, réellement, c'est que il y a du 1er au 4 février 2018 la conférence sur les finances, donc qui est organisée par Compass, le ministère donc qui soutient donc, enfin qui est à l'origine de ce qu'on est en train d'étudier. Et donc ça se passe au Portugal. Donc pour ceux et celles qui ont envie d'y aller, il faudrait qu'on se tienne au courant, etc. On peut organiser un voyage. Et ce que voilà, ça peut être super. Cette année, il y a le fondateur en plus qui sera là comme orateur. Il y a Kurt qui sera comme orateur. Il y a des mecs des pays de l'Est qui apparemment sont des pointures sur le domaine qui seront là. Et moi, j'y étais jamais. Mais j'ai entendu des gens qui y étaient. Donc moi, dans la formation, quand on l'a fait avec Mathilde, il y avait quelqu'un qui est allé. Il a dit c'était génial. Le week-end kick-off, là, on a eu des invités de Saverne qui y étaient. Ils ont dit c'était trop bien. Ils ont envie d'y aller encore, etc. Bon, voir quelles sont nos possibilités. Priez pour ça. Si Dieu vous met vraiment à cœur d'y aller, que vous n'avez pas les finances, eh ben c'est le feu vert, quoi. Ça veut dire que Dieu va faire un miracle. Et moi, j'ai vécu des miracles. Les miracles financiers que j'ai vécu, les tout premiers, c'était en allant à une conférence chrétienne où Dieu a vraiment pourvu. C'était en Colombie. Voilà. Donc, en fait, le thème, c'est aider tout un chacun à entrer dans une liberté financière. Voilà. Du 1er au 4 février 2018. Voilà. Ça, c'était les deux petites annonces de ce soir. Et je vous propose qu'on commence par prier, ok? Et on va rentrer dans le sujet. Merci Seigneur pour cette soirée. Je crois Seigneur que tu nous as précédés, mais je t'invite quand même Seigneur. Je t'invite à prendre toute la place et ce n'est pas moi qui parle. Je ne veux pas parler ce soir en mon propre nom et en mon honneur. Je veux que ce soit tout l'honneur, la gloire pour toi Seigneur. Alors viens. Viens, Seigneur, encore passer au travers de moi afin que le cours soit donné de la meilleure façon, que les cœurs ce soir réceptionnent de la meilleure façon aussi, Seigneur. Et que l'effet, Seigneur, soit l'effet que tu as désiré avant même que je prépare cette session. Mais ce soir, j'aimerais tout particulièrement remettre le groupe Seigneur sous le sang précieux de Christ, sous ce sang précieux qui a été versé à la croix. Je m'y place aussi, je me place en dessous de cette bénédiction extraordinaire, Seigneur, que tu as accomplie pour nous. Et merci, Père, pour l'effet de ce sang dans nos vies. Il purifie, il libère, il nous rend libre, mais il est puissant aussi, Seigneur. Alors merci, je veux l'appliquer ce soir sur notre groupe de prière. Pour ceux qui vont entendre l'enregistrement, je déclare sur vos vies aussi que le sang précieux de Christ est sur vous. Et je prends vraiment cette victoire, je prends vraiment cette... je prends cette bénédiction, Seigneur, et je l'applique à nous tous par la foi et au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue encore à ceux qui arrivent. Super. Alors, on est justement en train de... C'est toujours la famille Johnston qui récite les versets, c'est fou ça. Ils ont pas encore eu les autres, ils ont révisé juste avant le cours encore deux, trois fois. Ok. Alors, qui c'est qui a envie de déclarer haut et fort le verset de cette semaine? Qui le sait? Qui a envie? Alors, on a un micro, on a deux micros pour tout le groupe. Il faut juste l'allumer, il faut vérifier que ce soit bien. Voilà, super. C'est allumé. Ézéchiel, vas-y.
Le riche a les pauvres en son pouvoir. Celui qui emprunte devient l'esclave de son créancier. Proverbe 22, 7.
Excellent. Ça, c'est bon, ça. On peut l'applaudir, hein. On peut l'applaudir, on l'encourage. Excellent. C'est ça. C'est ça, mais j'apprécie, j'apprécie. On voit qu'il a une dette, ok. Dites les blagues dans le micro pour que l'enregistrement, ils entendent. Qui c'est qui a envie encore de déclarer le verset qu'il a pris à cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se prononcer? Personne? Ah, c'est sûr que... Ouais, vas-y, Valentin.
Le riche a le pauvre en son pouvoir. Ceux qui empruntent... ceux qui empruntent sont les esclaves de ceux qui prêtent.
Au pluriel.
Proverbe 22, verset 7.
Excellent, excellent. Est-ce que quand vous récitez, quand vous apprenez le verset, vous le comprenez? C'est très très important. Et du coup, en fait, on peut se souvenir comme ça, dire, ok, ah, si je suis, en gros, je peux le dire autrement. Je peux dire si. Ouais, vas-y, Ghislaine, justement, si t'as un exemple, c'est super. Vas-y.
Le riche domine sur le pauvre, et le pauvre est esclave de celui à qui il emprunte.
Exactement. Ouais. Exactement. Est-ce que on est forcément pauvre quand on emprunte? C'est la question. Mais c'est c'est effectivement, ouais. On va voir ça dans le sujet de ce soir, dans les différentes questions. OK, le jour numéro 1, on avait l'invitation à lire les commentaires de la session précédente. Et je vous pose la question, je sonde un peu au cœur, comment le Seigneur a-t-il utilisé l'argent pour façonner votre caractère? Est-ce que vous avez des témoignages, des courts témoignages pour répondre à cette question? Est-ce que vous avez envie d'encourager les autres, dire « Ouais, moi j'ai été vraiment... Comment le Seigneur a fait ?» Est-ce que vous avez des exemples? Je sais que vous en avez, parce que vous témoignez de semaine en semaine. La question c'est, comment le Seigneur a-t-il utilisé l'argent? D'accord, ce thème, ce qu'on est en train de voir, pour façonner votre caractère. Est-ce que dans votre vie, vous avez vécu des expériences? Vas-y, Rebecca.
Alors moi, en fait, c'était pour mes études. J'ai décidé de faire mes études. Enfin, c'était un choix. J'ai décidé de faire à Strasbourg. Et il m'a déjà permis plein de choses par rapport à ça. Et j'allais commencer mes études d'infirmière en février. Et en fait, par un concours de circonstances, j'ai ouï dire que si je travaillais avant d'aller à l'école... je pouvais toucher en fait une rémunération de fin de formation et être payée par Pôle emploi pendant mes 3 ans de formation. Et en fait, j'ai pu tout faire dans le temps, dans le timing pile poil qu'il fallait. Je suis allée chez mon conseiller et en fait, je suis arrivée. Il m'a dit, tout est parfait. Vous pouvez, enfin, vous êtes vraiment éligible à cette rémunération. Et en fait, Sans ça, j'aurais jamais pu faire mes études sur Strasbourg. Et j'ai eu pendant 3 ans, j'ai eu par mois 650 euros par Pôle emploi. Excellent. Ce qui me permettait de payer mon loyer parce que mes parents ne pouvaient pas vraiment m'aider. Et ben, c'est grâce à lui, j'ai vraiment pu faire ça et j'étais vraiment reconnaissante. Ça m'a permis d'apprendre à gérer aussi mon argent puisque j'ai pu être en colocation sur Strasbourg. Et c'était vraiment trop cool.
Super. Donc, nickel. Super. Du coup, ça a affermi ta confiance en Dieu et puis tu as vu que son timing...
Son timing est juste parfait en fait parce que nous on peut un peu stresser et se dire je sais pas comment faire. En fait lui il pourvoit tellement au bon moment, au moment où lui il a décidé, ça concorde en fait avec tout. Donc c'est juste
trop encourageant.
Bien,
super, nickel. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait donner un témoignage? Ouais, on en a deux encore. Ouais. Les deux seront donnés. Vous pouvez le laisser allumer, ce sera...
Moi, j'ai un témoignage un petit peu. Quand j'étais en Roumanie, vraiment, j'avais un super poste, un super salaire. Je partais en vacances. C'était avant que je sois chrétienne. Et au moment où je suis devenue chrétienne, je mariais Jean. Et, oui, on s'est mariés. Et le Seigneur nous a envoyés ici en France. On a senti qu'on doit venir en France. Au moment où je suis arrivée en France, tous les moyens ont été coupés.
Okay.
Et on se retrouvait dans des situations vraiment pénibles, sans argent, gens qui travaillaient n'étaient pas payés. Mais tout ça, quand je regarde derrière moi, je me rends compte que j'ai appris la dépendance de lui, dépendre de lui, totalement. J'ai eu des moments où j'étais enceinte de David et je n'avais pas de quoi manger. Je dis, Seigneur, je n'ai pas de quoi manger. Et le Seigneur m'a envoyé un frère avec un grand sac de nourriture pour toute une semaine et tout ça. Et j'ai appris, il m'a coupé tous les moyens sur lesquels moi j'ai compté mon intelligence, mon travail, mes sous, mes, pour m'amener dans un état où je peux apprendre à m'appuyer sur lui.
Ah, super. Excellent. Bah là, c'est aussi un super témoignage. On voit le caractère qui est forgé dans ça. Oui,
le caractère est forgé parce que tu te rends compte, tu es brisé. Tu es brisé. Et tu te rends compte qu'il n'y a rien qui dépend de toi. Qu'en fait, si lui n'ouvre pas des portes, si lui ne donne pas d'opportunité, mais tu es la fourmi là, comme une fourmi, mais pire qu'une fourmi. Et je me rappelle que dans cette période-là, on avait tellement de victoires suite à la prière. On priait, on partait même à l'église pour apprendre à prier plus, parce que moi, j'étais au début de ma conversion. Et j'avais des victoires et ça m'a encouragée. Et quand je regarde derrière, je me rends compte que j'ai grandi à cause de cette décision que lui, il a prise, de me couper tous les moyens, tous les vivres.
Super, ça m'encourage parce que du coup, ce témoignage montre que Dieu n'est pas contre le fait d'avoir des possessions, des moyens financiers. Et je crois qu'on va voir justement qui veut qu'on en ait en tant que chrétien. Mais peut-être que tu avais ton cœur placé sur ces choses-là et pas en lui. Et c'est la façon dont il t'a appris à switcher.
Au début de ma conversion, je lui ai dit, c'était une prière que moi je faisais tout le temps, c'est toi mon héritage, mon seul héritage, c'est toi. C'était vraiment un cœur donné vraiment à Jésus. Et je disais, il n'y a rien sur cette terre qui pourra me rendre heureuse. C'est que toi qui me rends heureuse. C'est toi mon héritage, tu vois.
Ah, super.
Comme Dieu dit aux Lévites, tu vois, c'est moi votre héritage. Vous n'aurez pas une part. Parce que, c'est peut-être suite à cette... Dieu aussi a répondu à cette prière, quoi.
Excellent. Voilà. Super, on va écouter Jonathan aussi.
Alors, c'est pas arrivé les 3 dernières semaines, mais je sais qu'il y a plusieurs fois où des fois j'ai dit à Dieu, ouais, je vais faire un don spécial, un don important. Et juste après, je me souviens un jour, je voulais faire un don important, et juste après, il y a ma voiture, le turbo, il a lâché, donc c'est 1600 euros de réparation.
Wow.
Et là, c'était comme si, ok, t'as dit. Est-ce que tu vas faire? et je me souviens que j'avais quand même fait. et Dieu, il a pourvu. Alors, pas direct dans la foulée, mais c'était 2-3 mois après. Après, voilà, c'était réglé, quoi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais à force, j'essaye d'anticiper les moyens par lesquels Dieu il peut pourvoir, mais c'est jamais de comment on pense.
Ouais. Super. Ouais, c'est cool. Un dernier, on va continuer.
En fait, moi, c'est plus un truc prophétique que j'ai envie de dire sur ma vie. Parce que j'en suis pas encore. On parle du passé. La question est au passé, mais c'est encore au présent. En fait, moi, on m'a toujours appris à être indépendant, à être autonome, à gérer mon argent, à anticiper sur la suite et tout. Mais en fait, plus je fais cette étude-là, et plus je me rends compte qu'il faut être dépendant de Dieu. Et pour moi, c'est pas du tout dans ma manière de penser d'être dépendant de quelqu'un, parce qu'on m'a éduqué en me disant sois indépendant, raisonne, réfléchis, anticipe, et donc je proclame que un jour je serai vraiment dépendant de Dieu et que de Dieu. Voilà.
Super, super. Ok, très bien. J'avais quelques exemples aussi à vous partager. En tant que juste comme vous, j'apprenais, quoi, j'apprends encore, mais Seigneur, enfin, je pense que c'était une inspiration de Dieu. C'est souvent quand je marchais dans la rue, le Seigneur, je trouvais une pièce de 1 euro par terre, pas 1 euro, 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, des petites pièces, des faibles montants. Et avant, je pouvais passer à côté, et puis les dénigrer comme ça, et puis avancer. Et un jour, en fait, c'est vrai que c'est au travers du parcours qu'on suit ensemble que j'avais eu d'un coup la pensée de dire, si tu ne sais pas gérer et si tu dénigres un cent, un centime, comment tu vas gérer 1 million de cents que je vais te donner ou que je pourrais te donner éventuellement? Et en fait, j'ai juste compris que waouh, il fallait que je sois un fidèle intendant de très petit. Des choses insignifiantes pour les gens au lycée. Je vois souvent les jeunes, ils peuvent balancer ça, ils sortent ça de leur porte-monnaie, ça les embête. Mais moi, j'ai décidé chaque fois que je passe et j'en trouve une, même un peu abîmée, un peu sale et tout, je me dis voilà, c'est mon principe, je vais la prendre et je la mets dans une petite boîte. Je dis juste ok, là je prends encore soin d'un petit peu, et tu peux, Seigneur, monter et puis me faire confiance pour les plus grandes choses, si les petites choses sont... Donc souvent on se dit, oui, parfois plus tard, quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais vraiment faire attention à bien gérer, parce que quand on a beaucoup d'argent, ça peut vite partir, etc. Eh bien, ça c'est un faux raisonnement. Et beaucoup de gens ont cette pensée-là, et disent, oui, si je gagne au loto et tout ça, ah bah, à ce moment-là, je vais vraiment faire gaffe à comment je vais gérer mon argent, parce que... on ne gagne pas tous les jours au loto. Mais en fait, c'est réellement un faux raisonnement, parce que dans la pensée de Dieu, c'est l'inverse. C'est commence déjà avec ce que tu as, commence avec tout ce que je t'ai confié, etc. Peut-être tu es dans une famille où il y a toujours eu de l'abondance, etc. Et c'est bon, on va le voir dans les sessions prochaines, comment on peut inculquer à nos enfants à gérer, et en commençant par des toutes petites choses. Et on va devenir après des gérants de grandes choses, parce qu'on aura su prouver à Dieu que dans les petites, on est bon. Et un deuxième exemple, ça m'est revenu juste avant, c'est que quand mon travail commence à 7h30 au lycée, et en fait je dois faire ce parcours au lycée, c'est j'arrive au lycée, je vais à l'accueil, je prends mes clés et je note mon horaire d'arrivée, en fait. Et voilà, et moi pour dire que je suis arrivé à 7h30, je mets voilà, je regarde l'heure, c'est 7h30. Mais souvent j'arrivais à 7h35, souvent j'arrivais à 7h40. Et je me disais, mon chef, il ne me dit jamais rien. Je notais 7h40 et tout, 7h35, puis je me dis, oh, je rattrape 5 minutes en plus, etc. Mais je ne le faisais pas tout le temps. Et en fait, un moment, je dis, Luc, tu n'es pas fidèle dans le contrat qu'on t'a donné. Et c'était une petite chose, quelque chose que personne n'aurait même... Mon chef, il aurait pu le voir, parce qu'après, etc. Le décompte, il le prend à la fin de la journée, il voit, il note... Mais il sait que je fais mon travail, etc. Donc ça ne l'embête pas. Mais je lui dis, tu travailles pour qui? C'est qui celui que tu veux honorer dans ton travail? Et du coup, je dis, non, je veux vraiment faire attention. J'ai envie de noter 7h30 au maximum, ou sinon j'arrive 7h25. 7h... Et quand j'y arrive plus, là, quand parfois je suis en retard, etc., je me dis, mince, ça c'était un échec, je te demande pardon, Seigneur, je vais faire mieux la prochaine fois, ou alors je vais rattraper, etc. Mais c'est juste, j'ai juste pris conscience, c'est pas forcément de l'argent, mais c'est tout ce que Dieu nous confie, on a besoin d'être fidèles dans les petites choses. Et quand on manifeste, pourquoi on passe, est-ce que vous croyez que Dieu, quand on passe notre journée au travail, c'est une grosse partie de notre temps, est-ce que vous pensez que Dieu voit ce temps-là juste pour vous donner à manger à la fin du mois? Je crois que c'est un terrain d'entraînement où Dieu nous montre, il nous dit, ok, je t'ai placé là, maintenant on va voir, est-ce que peut-être un jour je pourrais te donner un ministère? On va d'abord voir comment tu tonds le gazon et tout. Et si tu sais prendre soin d'un jardin, peut-être que je peux te montrer comment on prend soin d'une famille, etc. Vous voyez un peu, enfin, c'est très vaste. Mais en tout cas, je vous encourage, les choses qu'on a à apprendre commencent souvent par les petites, très petites choses. Ok ? La deuxième question, quels points forts ont été développés en vous ? Les points forts, vous l'avez dit, plus de confiance, peut-être plus d'assurance, ou juste simplement... La certitude que Dieu allait pourvoir. Et ça, c'est super. J'ai beaucoup aimé ton témoignage, Andrea. J'ai aimé tous les témoignages parce que ça m'a encouragé. Et je crois que Dieu ne vient jamais en retard. Il vient toujours à l'heure. Et l'histoire du timing, ça me parle toujours. J'ai toujours cet exemple-là. Alors oui, peut-être que vous avez une meilleure relation avec le Seigneur. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on prie pour ça. On prie pour que cette formation, elle vous permette que, au travers des finances, vous ayez une meilleure relation avec le Seigneur, une gestion meilleure de vos ressources, que peut-être vous avez une plus grande conscience de qui on est. La fois dernière, on a vu qu'on est des gérants. On est des gérants de tout ce que Dieu veut nous confier, et non des propriétaires. Dieu est le propriétaire. Est-ce que vous arrivez peut-être à vous contenter plus facilement? Et on va voir ça dans les leçons suivantes, etc. Il y a plein de choses. J'espère que quand vous avez commencé la formation jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu des choses, vous sentez que Dieu commence à travailler, il met le feu aux poudres, il dérange un petit peu, etc. Tout ça, c'est pour notre bien. Et je crois que j'en ai déjà entendu plein, mais chacun, vous allez avoir un témoignage. Vous allez avoir plusieurs témoignages. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai encouragé certains d'entre vous avant. Revenez sur les leçons plus tard. Dieu va sans doute vous dire, va revoir cette leçon, souviens-toi de ça, t'as peut-être manqué de faire ça. Et moi, il le fait. Et le fait de vous apporter le cours, ça me permet de me replonger dedans. Donc, c'est nickel. La troisième question du jour 1, donc, quels points faibles ont besoin d'être améliorés? Je vous laisse répondre dans votre tête. Vous avez noté des choses, on n'a pas besoin de les partager forcément, mais peut-être parfois c'est encore trop de gaspillage. On peut gaspiller du temps, on peut gaspiller des ressources, on peut gaspiller de la nourriture, bien sûr. Et ça, c'est une des ressources que Dieu nous donne. Peut-être qu'il y a encore la peur de manquer. Peut-être qu'il n'y a plus la peur de manquer dans certains domaines. Mais comme moi, je vous le dis, il y a encore la peur de manquer. Parfois, oui, ça vient. J'ai besoin de lutter. J'ai besoin de mettre à genoux dans ma chambre et dire, Seigneur, je confesse que j'ai eu la peur là, de manquer. Et je refuse ça maintenant. Et je vois Dieu pourvoir ensuite. Peut-être pas assez confiance en Dieu. Voilà, on peut mettre ce que vous avez sur le cœur, etc. Mais ensuite, travaillez-le et demandez à Dieu de ne pas vous laisser tranquille jusqu'à ce que ce soit réglé. En tout cas, ce qu'il faut retenir, surtout de la leçon dernière, c'est donc d'être un bon témoignage pour les autres. On n'a pas besoin de parler. Ça se voit quand on gère nos biens. Dieu nous appelle à être des gérants et ça va produire en nous un témoignage que les gens vont voir. Waouh ! Il se passe des choses dans sa vie. Vous n'aurez pas besoin de parler. Quand vous gérez bien quand vous gérez correctement et même glorieusement vos biens, ça va se voir. Être fidèle dans les petites choses, le deuxième principe, on va le retrouver plus loin dans la formation, et prendre soin des biens d'autrui. C'est un point aussi qui a été soulevé dans la formation. Surtout, je vous donne un exemple, quand vous allez au travail, vous sortez d'une pièce, vous laissez la lumière allumée. Oh, c'est pas grave, c'est pas moi qui paye. Mais chez vous, voilà, c'est automatique au travail, super, vous n'avez pas ce problème. Mais voilà, on est parfois confronté à dire, vu qu'au travail, c'est pas moi qui paye, etc. On se déresponsabilise. Mais Dieu voit ces tout petits, ou à l'hôtel, ou peu importe, ou sous la douche. À l'hôtel, je prends une douche de trois quarts d'heure, c'est pas moi qui paye l'eau. Ben voilà, mais chez vous, vous l'aurez pas fait. Donc de tout faire, et je vous encourage de tout faire comme si c'était chez nous et pour nous. Voilà. Ça, c'était le jour 1. On va passer au jour 2 avec quelques versets. Si vous avez vos Bibles, je voudrais vous proposer de prendre Deutéronome, verset 15. Non, chapitre 15, versets 4 à 6. On va rentrer dans la parole de Dieu. On va la disséquer un petit peu ce soir et je crois qu'il y a, il y a des bonnes choses. Je me réjouissais de vous apporter cette session parce que ça va, je pense que ça va vous amener de la compréhension, de la connaissance et que ça va vous libérer. Ok, le verset dit « Toutefois, il n'y aura pas de pauvres parmi vous, car le Seigneur votre Dieu vous comblera de biens dans le pays qu'il vous donnera en possession. Pour autant que vous obéissiez à ses ordres, en mettant fidèlement en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui. Quand le Seigneur votre Dieu vous comblera de bien, comme il l'a promis, personne parmi vous n'aura besoin d'emprunter de l'argent. Au contraire, c'est vous qui en prêterez à de nombreux étrangers. Vous dominerez en effet de nombreuses nations étrangères et aucune ne vous dominera. » Super verset. Deutéronome 28, on va lire quelques versets ensemble, ça, c'est important. Vous pouvez rester après dans 28, versets 1 à 2. Si vous obéissez fidèlement au Seigneur, votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre et il vous comblera des bienfaits que voici. Et ensuite, il y a un petit saut jusqu'au verset 12. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel où il conserve précieusement l'eau afin de laisser tomber la pluie sur vos terres en temps voulu et de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Vous n'aurez pas besoin d'emprunter de l'argent, au contraire, c'est vous qui en prêterez à de nombreux étrangers. C'est marrant, c'est redit encore une fois. On va au verset 15. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. Et ça saute au verset 43 à 45 du chapitre 28 toujours. Les étrangers, ceux qui séjourneront parmi vous, augmenteront de plus en plus leur puissance, tandis que vous perdrez progressivement la vôtre. Ce sont eux qui vous prêteront de l'argent, et non plus vous qui leur en prêterez. Ils seront vos maîtres et vous serez à leur service. Tous ces malheurs s'abattront sur vous et s'acharneront contre vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Parce que vous aurez refusé d'obéir au Seigneur, votre Dieu, et d'observer les commandements et les lois qu'il vous ordonne de mettre en pratique. Wow. On voit deux aspects, mais on voit un aspect qui est super positif. C'est, si Dieu les donne, c'est que c'est accessible pour nous. Les deux sont accessibles, sont... Oui, on a un choix. On a un choix d'obéir ou de ne pas obéir. Est-ce que vous pensez que ces versets sont encore valables aujourd'hui? Parce qu'on dit oui, c'est l'Ancien Testament, etc. C'est Deutéronome. C'est une question qui est judicieuse de se poser. Mais je crois que oui. Alors, la question du jour 2, comment la dette était-elle perçue dans l'Ancien Testament? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Vas-y.
Comme une malédiction.
Exactement. Oui, comme une malédiction. La bénédiction, par contre, c'était de prêter. On le voit plusieurs fois, en fait, c'est marrant que Dieu dise « C'est vous qui prêterez de l'argent, c'est vous qui prêterez de l'argent et pas à vous qu'on prêtera. » Et ça, je trouve ça, il met quand même l'accent plusieurs fois dans différents versets. Pour quelle raison, la deuxième question, quelqu'un devenait-il un emprunteur ou au contraire un prêteur? Pour quelle raison on devient soit emprunteur ou soit prêteur? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à la question? Oui, Patricia?
C'est quand on veut, par exemple, acheter quelque chose dont on n'a pas et qu'on n'a pas les moyens pour ça. Et du coup...
Alors, je te coupe. Oui. Simplement, par rapport au verset qui disait, par rapport au verset qu'on a lu, dans quel cas on voit que du coup on est dans l'endettement Ou alors plutôt dans la prospérité, le prêt.
Ah, la prospérité dans l'obéissance de la parole de Dieu.
Exactement. On voit que ceux qui obéissent à Dieu, d'après ces versets qu'on vient de lire, oui, il y a une prospérité. Et la désobéissance amène à l'endettement. Et on va le voir, à l'emprunt, etc. D'après ces versets-là, Dieu dit, voilà, si vous êtes dans la désobéissance, vous allez devoir emprunter, on vous prêtera de l'argent. Donc là, on est dans le thème des finances, donc c'est par rapport à ça. Ça vous va? C'est OK? On passe au troisième jour. J'avance un petit peu, c'est simplement pour entrer dans une étude un peu plus détaillée et qu'on va voir au troisième jour. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8 dit « N'ayez de dette envers personne ou ne devez rien à personne, sinon l'amour que vous vous devez les uns aux autres. » Super verset. Alors, le mot « devez », on va faire un petit peu d'étude de texte. Le mot « devez », il vient du grec « ophélo ». Si vous avez envie de noter, c'est O-P-H-E-I-L-O, « ophélo ». Je ne sais pas si je le prononce bien. O-P-H-E-I-L-O, « ophélo ». Et ça veut dire « devoir de l'argent ». N'ayez de dette envers personne. Donc, la traduction grecque du texte original, donc c'est ophélo, et ça veut dire devez de l'argent. Donc, en fait, dans ce passage, on parle bien d'argent. On parle clairement d'argent. Certains diront oui, n'ayez de dette envers personne. Oui, j'ai une dette d'amour, j'ai une dette de. C'est dit, sinon l'amour que vous avez les uns pour les autres. Mais ne devez rien à personne, c'est ne devez pas d'argent à quelqu'un. Ne devez pas d'argent à quelqu'un, sinon tout l'amour. Que vous lui devez surtout. Voilà. Le contexte, c'est surtout, on le voit précédemment, c'est que Paul est en train d'exhorter les chrétiens à payer l'impôt. À qui ils doivent l'impôt? Vous pourrez le lire dans les versets juste un peu avant, 13, verset 7, je crois. Oui, Paul est en train de dire, payez l'impôt à qui vous devez l'impôt et le tribut, à qui vous devez le tribut. En fait, là, il est en train de dire, ça, c'est pas une dette. Ça, c'est ce que vous devez, c'est la loi, c'est comme ça, c'est pas une dette. Vous devez le faire, faites-le. C'est juste le contexte. Et ensuite vient ce verset, n'ayez de dette envers personne. Par contre, n'ayez de dette d'argent, ne devez pas d'argent à qui que ce soit. Alors, la question, une question que moi, je vous propose, c'est d'après vous, est-ce qu'on peut considérer la facture d'électricité qu'on reçoit à la maison comme une dette? Alors, prenez le micro, mais je suis ouvert à toutes vos réponses. Elisabeth.
Kurt avait dit que tout ce qui est facture, si c'était payé en 30 jours, ce n'est pas une dette.
D'accord. Alors, si la facture permet qu'on paye en 30 jours, oui. Si une autre facture, on met 30 jours parce qu'on a toujours payé en 30 jours, attention. Mais oui, si la facture d'électricité, ils disent 30 jours pour la payer, c'est bon. Donc, vous n'êtes pas sous la dette de cette facture sous 30 jours, effectivement. Par contre, le 31e, si vous ne l'avez pas réglé, là, oui, vous avez une dette envers cette facture. Donc, c'était une bonne réponse.
Et alors, qu'est-ce qu'il en est, par exemple, d'un prélèvement mensuel pour payer taxe d'habitation, taxe foncière ou impôt ou que sais-je? C'est prélevé sur une année.
C'est-à-dire, c'est un impôt. C'est
Non, mais si tu choisis, voilà. Bah, est-ce que c'est une dette ou pas? Est-ce qu'on peut faire
c'est un contrat. Ils t'ont donné la possibilité de le faire. Il y a aucun problème.
Okay.
Donc, pour moi, c'est tu dois de l'argent à quelqu'un. Si tu dis, tu peux me payer en 150 fois, tu peux. D'accord. Voilà. C'est un contrat. Par contre, s'il te dit en 150 fois et toi tu mets 170 fois, tu es hors contrat. Donc là, à ce moment-là, oui, c'est pas bon.
Et si j'achète des pneus en 3 fois?
C'est pareil, ils sont d'accord. Mais là, on va voir que
c'est
peut-être.
C'est une sorte de dette à la consommation.
Exactement. Tu honores ton contrat, mais attention. Que oui, tu vas te placer sous quelque chose. On va le voir ensemble. On va le voir ensemble. C'est un achat. Là, tu fais un achat. C'est pas une loi. c'est pas la loi de ton pays qui te dit ta taxe d'habitation, tu la dois comme tout le monde. Si tu achètes des pneus, tu te dis, bah, ok, tu fais un achat, tu as quelque chose en contrepartie aussi. Donc, ok. Il faut savoir qu'une dette, plus la dette est grande, en fait, plus le volume financier derrière le montant, je veux dire, est grand, plus on est asservi. Il y a quelque chose. Quand on a des dettes, on n'a plus en fait la totale liberté de décider comment utiliser l'argent. Et c'est là où on va voir que ça peut être dangereux. Alors, si on regarde un instant l'action de contracter une dette, est-ce que vous êtes déjà posé la question ? Moi, un jour, je me suis arrêté comme ça et je me suis dit, quand je fais un emprunt, voilà, quand je suis d'accord de faire un emprunt, allez, je demande à mon papa, « Papa, tu peux me prêter 10 000 ?» Voilà. Il dit, « Ok, je te les prête. » Qu'est-ce qu'on est en train de montrer ou de dire en réalité ? Est-ce que vous avez déjà songé à ça ? Est-ce que je vous invite à creuser l'idée. Je vais vous lancer sur une piste. Moi, je me suis dit, quand on fait ça, on est en train de dire indirectement, « Vous pouvez me prêter de l'argent ?» parce que demain, je gagnerai assez, j'aurai jamais de problème financier, je pourrai vous rembourser en temps et en heure, je sais de quoi il va en advenir du futur. Vous êtes d'accord ? Quand on fait ça, on est en train de dire... Parce que si demain tout s'arrête, ben, vous ne l'avez pas remboursé, votre emprunt. Vous voyez indirectement ? Donc oui, ça a fonctionné depuis des années comme ça. Tout le monde fait des emprunts. Pourquoi je ne pourrais pas en faire, etc. Voilà, mes grands-parents, ils ont remboursé leur maison 5 fois depuis, etc. Enfin, vous voyez, c'est des choses qui sont... c'est ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce que ça montre, ça ? Il y a un terme pour ça. Quand on se dit, ça va fonctionner, il n'y aura aucun problème, on est sûr de ce qui vient demain, etc. Est-ce que vous connaissez le terme ?
Prévoyance.
Là ?
De l'avenir, on présume de l'avenir.
C'est ça. Alors, il y a un mot pour ça, c'est la définition, on présume de l'avenir. Prévoyance, ça veut dire on fait tout en sorte pour se préparer. Clairvoyance ? La clairvoyance, c'est voir carrément, c'est avoir du discernement, ça peut être même un don prophétique. Je pense que c'est pas trop ça. Mais oui, ça présume, mais il y a un mot.
Non.
Alors, je vais vous donner le mot, c'est la présomption. De la présomption. La présomption, c'est un jugement, pour la définition qu'il en est donnée, un jugement fondé non sur des preuves, mais sur des indices, des apparences. Ah, ça risque d'être comme ça. Et sur ce qui est probable, sans être certain. C'est probable, mais c'est pas certain. Voilà. Vous voyez ? Et quand on montre à Dieu de la présomption, il y a quelque chose. L'avertissement, il est donné en Jacques 4, versets 13 à 15. Vous pouvez noter parce qu'il n'est pas dans le cahier. Jacques 4, 13 à 15. Écoutez-moi maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes, en effet, comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Voici bien plutôt ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alors, ça nous titille. Et quand on dit, tiens, à lundi, moi, je pense souvent à ça. Je dis, purée, pourquoi j'ai encore dit à lundi ? Ça veut dire que, bah oui, on va se voir lundi, forcément. J'ai de la présomption. Et alors, n'en faites pas un dogme, mais c'est simplement dans notre cœur. Quand on manifeste de la présomption, ça plaît pas à Dieu. On devrait ne pas en avoir. Alors j'aimerais vous suggérer 2 réflexions personnelles. Et pour ceux qui étaient déjà là quand j'en ai parlé, vous allez peut-être avoir la réponse. Alors laissez ceux qui n'en auraient pas réfléchir 2 minutes. La réflexion personnelle numéro 1 que je vous suggère ce soir, c'est pourquoi pensez-vous que Jésus est confié à Judas la bourse, l'argent, la gestion des finances pour son ministère. Judas, qui était un voleur, on le sait, c'est écrit. Judas, qui était, un mauvais gérant, qui piquait dans la caisse. Pourquoi Jésus l'a fait ? Alors, si vous avez la réponse, gardez-la bien au chaud. Et ceux qui n'ont pas d'avis, essayez de creuser juste un tout petit peu. Est-ce qu'il ne le savait pas ? Est-ce que Jésus s'est dit aucun problème avec lui, et puis d'un coup il a été surpris et tout ? Ou qu'est-ce que ça veut plutôt dire ? Parce qu'on sait que Jésus, il sait tout. Sortez une feuille et vous me faites une rédaction de double page. J'ai toujours rêvé de faire ça. À l'école, on m'a torturé avec les dissertations. Maintenant, je vais... Vous voyez, ça sort, hein. Ça travaille. Jonathan, vas-y.
Je sais pas si c'est ça, mais peut-être pour prouver que il avait, enfin, peut-être que Jésus, en faisant ça, il voulait montrer à ses disciples que sa confiance n'était pas placée dans l'argent, mais en Dieu. Non, je sais pas.
Que Jésus, sa confiance n'était pas placée dans l'argent, tu veux dire ?
Ouais. Même si quelqu'un piquait dans la caisse, il savait que Dieu allait pourvoir à ses besoins, quoi.
Ah, c'est une bonne piste. Je trouve que c'est une bonne piste, ouais. Ça rejoint ce que Ézéchiel.
Moi, je pense qu'il savait que de toute manière, il aurait été utile pour son plan, en tous les cas.
Que quoi aurait été utile ?
Le fait
que Judas était utile.
Que Judas serait. Enfin, le fait que Dieu se servirait de Judas, dans tous les cas, même si. Comment dire ?
Même s'il était voleur et.
Enfin. Ah, je sais pas comment dire.
On a vu comment il s'est servi, hein.
Ouais, là on parle de la bourse là, enfin avec la bourse, je dirais que que Dieu peut même se servir de Judas pour.
Mm-hmm. Ouais, pour ça je suis d'accord. Marche. Ouais, ça peut être une bonne explication aussi, mais c'est pas celle-là que je voulais. Une dernière piste, Patricia.
Pour le mettre à l'épreuve par rapport à lui-même, lui montrer son cœur par rapport à l'argent, par exemple.
C'est intéressant. C'est-à-dire lui mettre l'exercice qui va bien pour... ouais. Ok. Pourquoi il ne l'aurait pas fait à tous les autres qui étaient dans le business et qui faisaient sans doute collecteur d'impôts ? Je ne sais pas s'il était très honnête. Pourquoi Judas et pas un autre ils étaient tous en rapport avec le business, avec la gestion des finances, etc. Mais lui, il était particulièrement voleur.
Mais oui, moi je pense.
Alors, oui, Ghislaine.
Moi je pense pour que Judas prenne conscience de qui il est. Voilà, tous les jours confronté à la tentation. Il va peut-être voler au début, mais après il va peut-être se repentir. Mm-hmm. Voilà. Peut-être qu'il était peut-être juste là dans le déni. Puis Dieu voulait vraiment le mettre dans le feu accompli, oui. Qu'il se voit tel qu'il est, lui donner une chance de changer. Moi je pense que c'est ça.
Je pense que c'est pas faux. Je pense que c'est pas faux. Jésus, je crois qu'il a pas désespéré en disant que bah, Judas, de toute manière, il sera toujours voleur jusqu'à ce qu'il se pende. Et même, on a vu qu'il s'est pendu pour une somme d'argent. C'est le comble en plus. Mais la réponse que j'attendais, je trouve que c'est des bonnes pistes, très intéressant. C'est simplement. Dieu, je crois, et je l'ai appris, hein, c'est pas de moi, c'est que au travers de cette illustration. Dieu veut nous montrer qu'on ne peut pas épuiser le royaume de Dieu. Judas pouvait voler autant qu'il voulait, mais il pouvait voler tous les jours. Il pouvait raquer toute la caisse. Exactement, c'est ça. C'est pour nous montrer que Dieu pourvoira toujours. Alors, c'est effectivement que dans le royaume de Dieu, il y a toujours des ressources. C'est ce que toi t'expliquais, Jonathan. Moi, je l'ai compris, Dieu pourvoira toujours. Et ça, je crois que oui, il va pourvoir si on a un acte de foi derrière. Parce qu'il a de quoi pourvoir. Et c'est ce quoi qu'il a pourvoir qui ne s'épuisera jamais. On peut voler Dieu autant qu'on veut. Ce qui n'est pas une bonne chose. Mais, c'est illustré comme ça avec Judas, c'est qu'on aura toujours. Dieu ne sera jamais à court de munitions, quoi. Il aura toujours de quoi donner. S'il y a Judas d'un côté qui vole, mais d'un autre côté Pierre qui demande un miracle, il avait de quoi pourvoir au miracle. Il n'y a aucun problème. Et ça, je crois que c'est une réalité, un principe ou une révélation de la parole de Dieu qu'il nous faut vraiment intégrer dans notre cœur. Dire, ok, wow, Il y a des gens sur cette terre qui font des choses pas bien, qui le font parfois au nom de Dieu. Et c'est pas super. Des chrétiens dans les églises qui raclent les gens, etc. On entend parler de ça. Et d'ailleurs, l'évangile de la prospérité, vous en avez entendu parler, etc. C'est pas grave en soi pour notre bénédiction. Dieu peut répondre quand même à notre bénédiction. C'est pas parce qu'eux ont fait des choses, ils ont rien épuisé dans le ciel. Et ça, quand je l'ai appris, ça m'a vraiment réjoui. Et ça m'a fait penser, imaginez un jour, mettez-vous dans votre chambre et imaginez juste, c'est comment pour vous dans le ciel? Qu'est-ce qu'il y a? Comment Dieu ouvre les écluses? Et qu'est-ce qu'il va prendre pour nous les envoyer, pour nous les donner? Parce qu'il dit qu'il ouvre les écluses des cieux. On l'a vu la fois dernière. Le deuxième axe de réflexion, c'est donc en croyant que Dieu est infiniment riche. On a vu que ça ne s'épuise pas dans son royaume. Qu'il a tout, que les ressources ne s'épuisent pas, que même s'il donne beaucoup, alors j'ai mis entre parenthèses, j'ai même mis lol parce que je trouvais ça drôle, il donne beaucoup aux Américains, il donne beaucoup aux Anglais, il donne beaucoup aux Australiens et tout, aux chrétiens. Je me dis, même si on croit tout ça, quelle est ma démarche, moi, perso, en tant que gérant fidèle? Seigneur, j'ai mis tous tes principes en pratique, je veux les mettre en pratique encore plus, etc. Lorsque j'ai besoin d'une provision financière, c'est quoi ma réflexion? C'est en sachant ça, j'ai un papa qui a tout. Qu'est-ce que je fais? Moi, ça m'a interpellé. Je me dis, waouh, je vous laisse répondre. J'ai pas envie de donner de réponse ce soir, mais imaginez ça. Et ça, oui, est-ce qu'on est plus influencé par le monde qui nous propose des principes, qui nous propose des solutions, ou est-ce qu'on va voir Dieu qui a tout? Moi, ça m'a vraiment stoppé net et je me suis dit, il faut que je mette en adéquation ma foi avec mes actes, mes décisions, les choses très concrètes que je prends avec Mathilde, dans notre couple, dans notre foyer, pour ma propre vie, etc. Voilà. Ça va? Vous êtes avec moi? Ok. C'était pas une réflexion pour être dans le ciel maintenant. Vas-y, t'as une question? Vas-y, Valentin.
C'est bon?
Vas-y.
En fait, c'était juste par rapport à ce que tu disais avant sur Judas, pourquoi Jésus a confié l'argent à Judas. En fait, donc, je suis pas du tout contre ce que vous avez dit, c'est sûr, enfin, j'en sais rien, mais donc je peux pas être contre. Mais je trouvais juste que cette réponse était un peu orientée plus sur tous les autres disciples que sur Jésus, que sur Judas, pardon. Au final, alors que moi, je pense que Jésus, il veut quand même apprendre. Si je me mets à la place de Judas, j'aimerais quand même être mis apprendre quelque chose, quoi. Donc c'est pas juste pour dire regardez les autres, je lui donne un voleur et il peut tout voler, mais Dieu pourra quand même. Alors que je pense que Judas, il avait aussi sa part de grandir spirituellement et apprendre à gérer.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je pense que on les voit pas forcément ce soir, mais Judas. Tout le parcours, Jésus a passé 3 ans avec lui. Ils ont dû payer plein de choses. Judas était là quand il y a eu la multiplication des pains. Ils avaient de quoi payer dans la bourse, mais Jésus lui a montré que regarde, on va vivre des choses extraordinaires ensemble. Laisse la bourse de côté. Plein de choses comme ça. Et il l'a formé lui autant que les autres. Et je pense qu'il l'a pas mis de côté, mais il savait le fond. Judas avait le choix de changer. Mais on a vu, et c'est la parole de Dieu qui nous dit, il n'a pas changé. Il a même été pire. Vendre Jésus. Il aurait pu changer. Et je crois que ça se serait passé autrement. Le fait que Jésus soit livré, il aurait été livré parce que c'était le plan de Dieu qui meurt à la croix. C'était son but. Il aurait été par un autre moyen. Et c'est là où Jonathan, tout à l'heure, il disait « C'est marrant de voir comment Dieu pourvoit. Il ne pourvoit jamais comment je pense. » Donc oui, Dieu a toujours, quand son plan, il va l'accomplir. Comment, c'est pas notre responsabilité. Mais effectivement, Judas aurait pu changer. Enfin, c'est ma conviction. Judas aurait pu changer et se laisser enseigner autant que Pierre, que Paul, qui n'était pas un disciple direct. Mais oui, comme chacun d'entre nous, en fait, on a le choix. Et je crois que c'est en lui confiant la bourse, je crois même qu'il lui donnait encore plus le choix. Mais bon, après, ça se discute. Ok, prenons Proverbe 22, verset 7. Justement, dans ce jour d'étude qui nous dit « Le riche a les pauvres en son pouvoir, et ceux qui empruntent sont les esclaves de leurs créanciers. » Ah tiens, c'est marrant, c'est un verset qui m'est connu, enfin je l'ai entendu. C'était le verset de la semaine, effectivement. Mais ce n'est pas juste un verset comme ça, dit au hasard, parce que dans Proverbe, il ne savait pas quoi écrire, et voilà, il fallait combler le verset 7, sinon il n'y en avait pas. Non, le riche a les pauvres en son pouvoir. Si vous avez, et on le remarque dans ce monde, les gens qui ont de gros moyens, des moyens, des fortunés, c'est souvent eux qu'on écoute quand il y a une décision à prendre. Vous êtes d'accord? Ah, le gars, il a de l'argent, on va pas trop le contrarier, quoi. Il pourrait investir, ça sera à notre avantage. Des choses comme ça. Donc le riche, imaginez les chrétiens riches. À prendre des décisions, et moi je rêve de ça, qu'un jour des chrétiens, j'en connais en plus, j'en ai entendu parler déjà de certains, et les gars ils sont au top niveau, et enfin ils ont des moyens importants. Ben, les gars ils gèrent des antennes de télévision, mais quand il y a un programme chrétien qui doit passer, ça passe, aucun problème. Enfin vous voyez, c'est des choses où je me dis, on a besoin de. Dieu veut qu'on soit les meilleurs. Je vais le redire encore des centaines de fois, mais je prends conscience de ça. Imaginez un Dieu parfait qui nous laisse vite fait. Non, il veut qu'on soit à la première place. Ceux qui empruntent sont les esclaves de leurs créanciers. Ce n'est pas ceux qui empruntent sont les petits larbins, les petits serviteurs, les petits mignons. Non. C'est les esclaves. Si on vivait à l'époque, on n'aurait vraiment pas envie d'être un esclave. Les gens, ils savaient ce que c'était être esclave. Et c'est dans le contexte qu'il faut se placer pour comprendre ça. Esclave, c'est un mot fort. Aujourd'hui, ça a été aboli, mais avant, c'était fort, quoi. C'était, voilà. Verset suivant, 1 Corinthiens 7, verset 23 nous dit « Dieu vous a acquis, il a payé le prix pour cela, ne devenez donc pas esclaves des hommes. » Donc, ne devenez pas esclaves de vos créanciers. En gros, ne faites pas d'emprunt, parce que si vous faites un emprunt, vous devenez esclave. Ne faites pas d'emprunt. Alors attention, je vais nuancer cette chose-là, parce que ne faites pas d'emprunt, on va voir que on va voir ça plus loin. Mais c'est nuancé. La parole de Dieu nous y invite. Voyons comment. Ok, c'est pas juste faites ça et puis je vous donne pas d'indication. On va voir. Donc ça veut dire qu'on peut devenir des esclaves. C'est ça surtout qu'il faut qu'on retienne. C'est ne devenez pas des esclaves. Ça veut dire qu'avant, on a été rachetés par Dieu. Ne nous asservissons pas. Ne nous laissons pas asservir par quoi que ce soit. Et surtout pas par l'argent. Et surtout, l'argent, oui, qui peut, au travers d'un homme, nous rendre esclaves. C'est-à-dire qu'on peut se mettre sous l'autorité de quelqu'un. Si on a fait un prêt envers un monsieur, une dame, eh ben on est sous son autorité. Il y a quelque chose, vous voyez. Dieu nous dit, ne vous rendez pas esclaves de telle ou telle personne. Soyez les esclaves de Jésus-Christ. C'est un autre verset. Je n'ai pas la référence, mais je sais que c'est dans la parole de Dieu. La première question, c'est quel élément nous apporte ces trois textes. Je vais essayer d'avancer. Romains donc, 13, verset 8, nous dit de ne rien devoir. Il nous encourage. Il ne nous dit pas, ne faites pas ça, je vais vous faire la tête toute votre vie. Je vous encourage fortement. On avait vu ça pour la dîme. La dîme, Dieu ne dit pas, faites ça. Il dit, je vous encourage vraiment, 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 vraiment à le faire parce que vous allez emporter. Il va se passer ça dans votre vie. Il ne nous dit pas, ne sautez pas dans le ravin. Vous allez avoir une punition. Il nous décourage de sauter dans le ravin parce que les effets sont néfastes. Là, c'est exactement pareil. On est encouragé à ne devoir rien à personne si ce n'est l'amour. Et l'amour englobe beaucoup de choses, mais ne nous méprisons pas, ça parle d'argent, vous vous souvenez? Le mot « ophélo ». Proverbe 22, verset 7 nous dit « Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête », c'est transparent. Le verset suivant, Corinthiens 7, 23 nous dit « Nous sommes exhortés à ne pas devenir des esclaves d'autres hommes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, efforçons-nous à nous libérer de nos dettes. C'est surtout ça que ça veut dire. D'accord ? Si on en a, on va voir que ce n'est pas un problème, pas forcément un problème, mais allez, on va s'en sortir le plus vite possible et on va s'en dégager. Pourquoi ? Parce qu'on serait l'esclave de celui qui nous prête de l'argent. La question 2, ça va pour vous ? Il faut m'arrêter, hein, si jamais j'essaie d'avancer, parce qu'on a des bonnes choses à voir. Expliquer le point de vue des Écritures en groupant des idées contenues dans les versets précédents. Alors, c'est là où ce que je disais avant revient. Emprunter n'est pas catégoriquement un péché. J'insiste sur catégoriquement un péché. On ne peut pas dire « Oh, t'as emprunté, ou t'as fait un péché. » On ne peut pas dire ça. On ne peut pas en faire une loi. On peut pas en faire, on peut, non. Sinon, alors, qu'est-ce qui démontre ce que je dis ? C'est que Dieu nous dit à nous, chrétiens, vous vous souvenez, Deutéronome 28, verset 12, tu prêteras beaucoup à des nations, et tu n'emprunteras pas. Donc, Dieu, si c'était un péché, il est en train de dire, toi, tu auras beaucoup d'argent, et tu vas les faire pécher tous en leur donnant de l'argent, en leur prêtant de l'argent, plutôt. Non, ça ne va pas. Dieu est un Dieu juste, il l'est pour les non-chrétiens comme pour les chrétiens. Donc, ce n'est pas un péché. Dans ce cas-là, dans un certain contexte, dans un certain cadre. Parce que Dieu est juste, voilà. Mais dans certains cas, ça l'est. Et là, on va voir un petit peu d'où ça vient tout ça et j'aimerais vous conduire à vous montrer, à vous prouver, à vous expliquer, à vous enseigner sur le fait que en réalité, un grand nombre de personnes, ils se mettent, alors pas toutes, mais ils contractent des dettes. Et quand il y a ça, quand ils font ce genre de choses, c'est parce qu'il y a un esprit de tromperie qui agit et qui a l'œuvre. L'esprit de Mammon a justement parfois construit des forteresses et il est trompeur, on va le voir maintenant. Quand on fait un diagnostic de certains cas durs ou dans la vie des gens, parfois on ne sait pas pourquoi on achète des trucs, on les achète. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Je l'achète, mais je n'en ai pas besoin. Tiens, il est là. Puis celui de la semaine dernière, il est là. Et voilà. Mais ça ne sert à rien. C'est bizarre. Parfois, on ne sait pas combien ça va coûter en réalité, mais on dépense. Au final, je ne sais même pas combien je l'ai acheté, ce truc-là, mais... Je pense que c'était une bonne affaire. Et en fait, tu t'es fait complètement avoir. C'était une opération commerciale. Et puis, bref, tu sais pas combien tu dépenses. Parfois, on s'endette parce qu'on a vu nos parents faire comme ça. Je dirais, mon père, il claquait toujours, j'en sais rien, moi, au magasin de jouets. Eh ben, moi, je vais claquer au magasin de sport, par contre. Vous voyez ? Parce qu'il y a un héritage familial, il y a quelque chose. Etc. Il y a plein d'exemples qu'on peut donner et la liste serait méga longue. Mais on va voir d'où ça vient. Genèse 3, verset 13. Vous ne l'avez pas dans le livre normalement, si vous voulez noter. Genèse 3, verset 13. C'est le moment où Ève a croqué dans la pomme et elle est là. Voilà. Elle s'est laissée tenter, etc. Le Seigneur dit alors à la femme : pourquoi as-tu fait cela ? Elle répondit, écoutez bien, le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Alors, on fait une petite étude ce soir sur le mot donc trompé ou induit en erreur. Le serpent m'a induit en erreur et j'ai mangé du fruit ou le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. En hébreu, c'est le mot nacha. Nacha ou nacha, voilà, je ne parle pas trop hébreu. Qui veut dire tromper ou induire en erreur. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'elle a dit. Nasha, ça s'écrit N-A-S-H-A avec une petite apostrophe au bout. N-A-S-H-A, Nasha, avec un apostrophe après le A. Voilà. Donc ça veut dire, la première signification, c'est tromper ou induire en erreur. Mais, là où c'est vachement intéressant quand on cherche dans le dictionnaire ou dans le texte original, ça veut aussi dire prêter avec des intérêts. Donc, en gros, elle est en train de dire, le serpent m'a prêté avec des intérêts et j'ai mangé du fruit. En gros, dans le cas de Ève, le serpent l'a attirée dans un endettement spirituel tellement... ou l'intérêt, en fait, l'intérêt qu'elle doit rembourser. Il court tellement vite, vous imaginez le truc, elle a croqué, bam, l'intérêt est parti tellement loin, tellement vite, elle n'a jamais pu le rattraper. C'est un peu une image. Elle n'a jamais pu le rembourser de sa vie. Et personne, en fait, n'a jamais pu le rembourser. C'est pourquoi, en fait, on a Dieu qui a envoyé son Fils unique, payé sur une croix. Pourquoi ? Pour payer notre dette, la dette du péché, la dette de la désobéissance. C'est trop intéressant, je trouve. Et ce n'était que possible par Jésus-Christ. Par aucune autre personne. Abraham, il aurait pu sacrifier Isaac, ça aurait fait un beau sacrifice. Dieu aurait pris Abraham et il aurait eu des choses magnifiques. Il l'a pas fait, il y a eu des choses magnifiques. Mais ça n'aurait pas enlevé la dette pour toi ou pour moi. Alors que Jésus, oui, c'est Dieu lui-même qui l'a fait, qui l'a envoyé. C'était dans son plan. Alors, on voit un autre mot intéressant, on creuse, on fait une petite étude. Je l'ai dit plein de fois, ça, on fait une petite étude. Nombre 21, verset 8 à 9. Nombre 21, verset 8 à 9. Le Seigneur lui répondit, « Façonne un serpent de métal et fixe-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, le mot c'est nashak, et le regardera, aura la vie sauve. Moïse façonna donc un serpent de bronze et le fixa sur une perche. Dès lors, toute personne qui avait été nashak, mordue par un serpent, et regardait le serpent de bronze, avait la vie sauve. » Donc le mot c'est nashak, c'est le même mot qu'avant avec un K à la place de l'apostrophe. Voilà, nashak. Avant c'était nashak. Le mot nashak ici en hébreu veut dire être mordu. Être mordu. C'est intéressant de voir que comme si Ève a été mordue par le serpent. Le même mot nashak est utilisé en Deutéronome 23, verset 20. Donc on a Nombre 21, 8 à 9, vous l'avez noté. Nombre 21, verset 8 à 9. Et le verset suivant, c'est Deutéronome 23, verset 20. Deutéronome 23, verset 20. Tu n'exigeras de ton frère, aucun intérêt, nashak, c'est le même mot, ni pour de l'argent, ni pour des vivres, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Donc, le mot nashak, ici, veut dire accablé. La définition, c'est accablé par les intérêts d'un emprunt ou prêté avec usure. En gros, on lui met un poids de oh, l'emprunt, on accable cette personne avec les intérêts d'un emprunt. C'est le mot intérêt qui est en fait souligné ici. Donc on a un double sens. En d'autres termes, tu ne mordras pas ton frère comme un serpent. Je fais tout un parallèle entre les différents versets, mais c'est le même terme. En gros, quand ils ont écrit à l'époque la parole de Dieu, ils ont utilisé le mot nashak, qui veut dire ça. Okay, ils utilisaient ce mot pour la même chose. Et j'aimerais vous donner un dernier verset, c'est Habacuc 2, verset 7. Habacuc 2, verset 7. On voit encore ce mot-là, il est employé dans ce verset-là. Vous serez soudain pris à la gorge. Vos créanciers, vos nashak, surgiront à vos trousses et vous déchireront, ils vous pilleront à leur tour. Le mot créancier, vos créanciers, est aussi tiré du terme, donc nashak. Intéressant. Pour dire, en fait, ceux qui vous mordent, ils vont soudain vous prendre à la gorge. Ils vont être à vos trousses, ils vont vous déchirer, ils vont vous piller, etc. Vos créanciers, c'est qui les créanciers? C'est ceux à qui on doit de l'argent. C'est pas ceux à qui on doit un jeu de cartes. ou à des bonbons. C'est ceux à qui on doit de l'argent, même si un jeu de cartes, ça peut valoir cher. Mais l'esprit de maman, en fait, c'est là où je voulais en venir au début. Je vous disais, l'esprit de maman nous entraîne dans une tromperie. Une tromperie, mais surtout, il mord. Il mord comme un serpent. Et c'est ça qu'il faut comprendre, qu'il faut voir. Attention. Donc, on doit justement prendre conscience que quand on ouvre la porte à des dettes, on va voir encore dans un certain cadre, on ouvre, alors j'insiste, avant je disais catégoriquement, on ne peut pas dire qu'un emprunt est un péché, mais ici je dis, on ouvre potentiellement, donc on ouvre potentiellement la porte à une activité démoniaque dans le domaine spirituel. Quand on fait un emprunt, attention, il se peut qu'il y ait ça. Ces mots, effectivement, sont bien forts. C'est vrai que, waouh, mot démoniaque, d'un coup, ça peut faire peur, etc. Oui, on a besoin de prendre conscience. Et maman va certainement chercher à nous détourner, à nous tromper, à essayer de nous dévorer, à essayer de nous prendre quelque chose. Quand on ne contracte pas un emprunt selon la volonté de Dieu, je crois que Dieu peut nous donner son feu vert. Et on a des témoignages. Certaines personnes ont fait des emprunts, ils ne sont pas morts, ça se passe très bien. Ok. On va voir un petit peu dans quel cas c'est bon. Ok. Mais attention, c'est là où je veux en venir, enfin, c'est là ce que je veux souligner, attention, attention, attention. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Il nous le dit dans beaucoup, beaucoup de versets. On a besoin de prendre conscience que oui, attention, le serpent est là pour nous mordre et il veut le faire. Donc, on va pas lui laisser la possibilité. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'un emprunt très, très terre-à-terre, si on est très terre-à-terre, on voit, on entend parler, vous avez sans doute autour de vous des personnes, que quand ils ont un emprunt, d'un coup, il y a de la pression. Oh punaise, si par contre mon travail, là, je perds mon travail, je vais me mettre une balle parce que c'est fini là. Là, j'ai trop à rembourser et tout. Waouh, c'est dur. Et du désespoir, il y a de la honte. Les gens, ils commencent à sentir, purée, la honte envahir leur cœur, purée, moi, j'ai jamais été capable, j'ai dû faire un emprunt, etc. Et puis, ça fait la 10e génération, puis je dois rembourser encore de mes parents, etc. Ah, ils ont peur. Il y a comme un sentiment de noyade, c'est les gens qui le disent, ils se sentent noyés, ils se sentent étouffés. C'est bizarre, hein. On fait un truc, on met une signature sur un papier et d'un coup, peut-être pas le lendemain, mais sur du long terme, on commence à sentir, on peut se sentir comme ça, paralysé. Enfin voilà, c'est des termes qui reviennent quand les gens témoignent de ça. Et voilà. Pourquoi tout ça ? Pourquoi les gens ont des maladies, j'avais noté, des maladies physiques, des détresses mentales, des ruptures conjugales à cause de l'argent ? C'est incroyable. J'ai justement un ami pasteur qui m'a dit ça il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit en France, la cause de divorce, la première, c'est parce que y a un stress, une tension amenée par l'argent dans le couple. Parfois, à peine ils sont mariés, c'est déjà un conflit, c'est déjà ça met des tensions. Et puis en France, c'est une étude ou c'est un article qui a été publié, je ne sais pas où, mais en tout cas, ça a été dit. La première cause. Est-ce que vous pensez qu'un billet de 10 euros va péter un couple en deux? C'est un peu ironique. Je crois pas. Mais si les deux veulent vraiment le billet de 10 euros, effectivement. Mais bon, voilà. C'est l'esprit qui est derrière. Et on le parle depuis le début. L'esprit qui est derrière est dangereux. Il veut nous mordre, il veut détruire. Il y a une réalité spirituelle qui est décrite en Jean 10, verset 10. Vous l'avez entendu des centaines de milliers de fois, mais c'est vrai, le voleur ne vient que... Il vient que pour ça, en gros. Pas pour autre chose, voler, égorger et détruire. Donc, il ne faut pas être culpabilisé ce soir, mais c'est surtout alerter. C'est une prise de conscience. Et là, je mets vraiment un point d'exclamation. Faites attention. Et on doit se tenir devant Dieu. La dernière fois, on l'a vu comme des gérants fidèles. Okay, et ce n'est pas un problème parce que on va voir que Dieu a des solutions. Dieu a des choses pour ses enfants. S'il nous encourage à ne pas faire d'emprunt, okay, bah comment, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer alors? Parce que, vous êtes d'accord, on a besoin de finances. On est en train de voir tous les principes qui amèneront des finances dans nos vies. Et je crois que Dieu va nous façonner pour que, selon nos capacités, on l'a vu, ben, il va y avoir la provision. Andrea, son témoignage était puissant pour dire que même quand il n'y a rien, il y a. Parce que Dieu, il peut emmener comme il veut. Jamais en retard avec le loyer. Jamais en retard avec le loyer, ok.
Sans cap, sans rien, sans papier. Voilà.
Excellent. Ouais. Excellent. Est-ce que ce petit passage dans les Écritures ça vous a éclairé? C'était juste, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et en fait, si vous voulez, moi je fais ça en fait. Je vais sur Top Bible, je vais faire de la pub ce soir. Top Bible, c'est du top chrétien en fait. Ils ont détaillé toute la parole de Dieu. Enfin, vous pouvez cliquer, ça vient en deux clics. Et vous pouvez mettre la version hébreu Strong, etc. Et derrière chaque mot, vous avez un petit numéro comme ça. Et quand vous cliquez dessus, il vous emmène dans la traduction. Donc en fait, il vous montre toute la définition. Vous pouvez creuser. En fait, vous êtes trop. Après, vous sentez comme c'est pas accro, mais genre aventurier. Vous êtes comme les mecs qui décrivent des parchemins et tout ça. Moi, je parle le grec. Tout ça. Vous pouvez même mettre la version grecque. Bon, après, il faut gérer le grec. Mais je trouve ça vachement intéressant parce qu'en fait, parfois, certains termes nous parle pas trop, et en faisant ça, on voit la traduction originale du texte, et ça nous parle, ça peut nous percuter. Et là, en d'autres termes, Nacha, c'est vraiment, c'est parlant, sous plein de d'aspects. Quatrième jour, ça va pour vous? On a un peu de temps. Donc on a dit qu'une dette n'est pas catégoriquement un péché. Mais Psaume 37, verset 21, donc c'est là où on va voir que ça peut l'être. Psaume 37, verset 21, le méchant emprunte sans rembourser, mais le fidèle donne largement. Donc, voilà, c'est assez transparent. On peut emprunter, alors attention, je nuance toujours, dans un certain cadre, si vous avez le feu vert de Dieu, mais si vous ne remboursez pas, c'est un péché aux yeux de Dieu, vous devenez ce qu'on appelle un méchant. Et alors ça fait sourire, mais Dieu dit que vous êtes méchant. Et moi, j'aime pas envie. Mais parfois, ça peut être à notre insu. Et ça, j'ai trouvé vachement intéressant parce que je l'ai vécu. Mon père m'a dit, enfin un jour j'ai voulu m'acheter une voiture, c'était une super caisse de sport et j'étais fan des voitures de sport, mais j'avais pas l'argent. Et j'ai toujours eu des conflits avec mon papa parce que je regardais sur internet des voitures de sport et chaque fois je disais « Papa, est-ce que tu peux m'aider à la financer ? J'en prendrai super bien soin et je te rembourserai dès que j'aurai un travail et que j'aurai plus d'argent, etc. Voilà. » Et mon père m'a toujours dit « Tu mets de l'argent de côté. » Et quand tu auras un super travail, tu te la payeras. Ce n'était pas des gros bolides à 50 000 euros. C'était des bolides à 5 000 euros, 7 000 euros, 10 000 euros, etc. Et un jour, on devait, j'avais choisi de... Sur la route, comme ça, c'était par passe, dans l'année, comme ça. Et d'un coup, je vois de nouveau une voiture de sport et il y a un truc qui s'active en moi. Je dis, oh, j'aimerais bien une voiture de sport. Oh là là. Et je vois une Fiat Punto, mais la nouvelle, un petit peu sportive, mais sans trop. Et j'en parle à mon père. Et là, mon père, il me dit... Ah, là, tu parles de quelque chose qui, ça me va, quoi. C'est pas le gros truc tuning que tu as l'habitude de me demander. Je suis pas fan de tuning. Mais... Et en gros, mon père a accepté qu'on aille la voir au garage. On est parti au garage. Et avant ça, j'étais dans ma chambre, je me suis mis sur mon lit. J'ai dit, Seigneur, chaque fois que j'ai une discussion comme ça avec mon père, on se prend la tête et je repars frustré et je me tais et puis j'attends que ça passe. Et puis c'est nouveau quand je vois une voiture de sport que ça me relance et je redis et je me reprends la tête et je me voilà. Et il y avait un cycle comme ça. Et là, j'ai dit, c'est fini maintenant. Je dis, maintenant, on va voir cette voiture. Je te demande de conduire cet après-midi et qu'au nom de Jésus, ben, je sois vraiment... ça se passe nickel. Et on part. On part sur la route et tout ça. Et sur le côté, juste avant, c'était, allez, même pas un kilomètre avant d'arriver au garage, une de ces voitures de sport, comme ça, à vendre. Wow! À côté d'un cimetière et tout, elle était garée pour que les gens la voient bien et tout. Je suis, oh, papa! Faut qu'on aille voir. On allait voir, on est descendu et puis on la regardait, Toyota Celica, modèle 2000. Toyota, bref. Le mec, il avait vraiment refait la voiture, il avait fait, c'était un modèle unique parce que, voilà, vous voyez, c'était, il n'y avait pas deux comme ça. Et là, j'ai commencé à avoir mon cœur battre et tout. Je fais, oh là, je l'aurais jamais, de toute manière. Bref. Et mon père, il dit, oh, punaise, elle est vraiment, ça, c'est propre, c'est bien fait, etc. Mon père, il dit jamais des choses comme ça. Il a un regard assez, d'habitude, il dit, non, écoute, laisse tomber, c'est du kitsch, ou bref. Et là, il s'intéresse. Je fais, papa, il faut qu'on l'essaye, et tout. Ah, on va d'abord au garage. Alors, on est allé au garage, je suis rentré dans la Punto, j'avais plus envie de rouler en Punto. Mais, et mon cœur était sur, je pouvais plus, j'étais sur cette voiture. Et bref, je fais l'essai, ok, on verra bien, on repart. Et je dis, papa, on peut pas encore nouveau une fois aller la voir sur le chemin du retour. Alors, on y va. Et là, il me dit de, bah, appelle le gars, et puis s'il peut venir, on fait un essai. Ah bon? Donc, ça veut dire, on peut essayer, quoi, on peut aller plus loin. Et c'est ce qui s'est passé. On a fait un test, on a roulé, etc. Mon père était OK. On arrive à la maison. Mon père, il parle avec ma mère. Et puis, il m'appelle un coup. Il me dit, Luc, viens voir. Si tu veux, on te prête l'argent et tu nous rembourses quand tu l'auras. Et là, je croyais que c'était un conte de fées et tout ça. Et je me suis refusé de me réjouir dans mon cœur. Je me suis dit, s'il y a un truc, une entourloupe, et que le gars, il la vend à quelqu'un d'autre et tout, je vais être réjoui. Ça m'arrivait souvent. Donc, je me suis interdit de me réjouir souvent dans ma jeunesse. Alors que Dieu, il dit, réjouissez-vous tout le temps. Je le répète, réjouissez-vous. C'est ce qui m'a libéré ensuite. Beaucoup, quelques années plus tard. J'ai acheté cette voiture, on l'a eu, etc. J'ai roulé, hein, et quand je sortais de ma cour, boum, je disais, ah, regarde ma caisse et tout. Et j'ai commencé à avoir de l'orgueil à fond, etc. Et ça s'est passé comme ça. Bref, ceux qui m'ont connu avec la voiture et tout ça, ils s'en souviennent. Et puis, boum, je l'ai planté sur l'autoroute. Je l'ai craché avant, arrière, poubelle. Toute la voiture poubelle. Elle n'était pas remboursée, elle était remboursée à moitié, etc. Là où je veux en venir ce soir, c'est une fin assez désastreuse. J'en ai encore porté des préjudices. Enfin, ça me touche encore. Simplement, pourquoi ? Quand on prête de l'argent à quelqu'un, sans mettre un cadre de remboursement, un plan de remboursement, dans le monde, il y a ça. Dans le monde, il y a, si tu empruntes de l'argent, tous les mois, tu rembourseras combien ? Jusqu'à quand ? C'est propre, c'est défini, il y a un contrat. Voilà. Si dans le monde, il y a ça, avec Dieu, il n'y aurait pas ça ? Je vous pose la question. Donc, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Un petit peu, beaucoup, même de la présomption, effectivement, je le redis pour le micro. Prenez le micro, oui.
Moi, je dirais que c'est aucunement pour bénir. C'est juste personnel. Parce que, enfin, suffit de prendre l'exemple de la... Comment ça s'appelle ? La dernière crise, là, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, bref. Enfin, l'origine de la dernière crise, c'est qu'on prêtait sans faire attention à des gens dont on savait qu'ils ne rembourseraient pas.
Ok. Ouais.
C'était juste pour l'enrichissement personnel. Okay. Dans tous les cas, on allait piocher sur sa maison, on allait prendre sa maison, tout ça. Donc okay. Ouais, donc c'est juste personnel. C'est aucunement pour bénir.
Ok.
Ouais, pour moi, ça se résume à ça quand on prête sans faire attention. Mm-hmm.
Vas-y, Jonathan, si tu as une idée.
Ben, dans ce cas-là, la voiture a pris trop de place et en général, quand quelque chose prend la première place, Dieu il l'enlève. Enfin, quand quelque chose prend la première place, elle est pour Dieu, et quand quelque chose prend cette place-là, soit il nous le redemande, ou soit il l'enlève. Quoi, mais...
Ok. Répétez la question. C'était quoi la question? La question, simplement, c'était de qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que, pourquoi, quand on prête sans mettre un plan de remboursement derrière, c'est pas bon? Qu'est-ce qui se passe? Le monde le demande. Pourquoi Dieu ne le demanderait pas? Parce que c'est quelque chose qui est bon. Ouais. Prenez le micro, prenez le micro. Et dans mon cas, effectivement, c'est quand mon papa, mes parents m'ont prêté cet argent, ils m'ont dit, tu rembourseras quand tu pourras, voilà, on te fait confiance, etc. Je voulais vous amener à vous montrer qu'est-ce qui s'est vraiment passé derrière tout ça. Et pourquoi après j'ai vécu des choses un petit peu, je me suis dit, wow, c'est fou. Et Dieu me parle encore maintenant. Je me suis endetté, effectivement. Je me suis endetté. Mais, je me suis endetté. Alors, est-ce que vous croyez que c'est un problème si vos parents vous prêtent de l'argent? Est-ce que vous croyez, on a vu, qu'on devient méchant si on ne rembourse pas? Est-ce que vous croyez que quand... allez, moi, Luc, je prête de l'argent à Mathilde et je lui dis, tu rembourseras quand tu pourras. Est-ce que, franchement, si on se pose cette question, franchement, est-ce que vous croyez que Mathilde va me donner l'argent régulièrement, bam, ok, quand je pourrais, ah d'accord, bon, ben, j'ai du temps. C'est possible, on va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais la plupart du temps, c'est pour ça où je dis que c'est pas catégoriquement un problème, c'est la plupart du temps, on le fait pas, on rembourse un petit peu par là. Ah, le mois suivant, il y a des vacances. Bah, je vais peut-être plutôt préférer les vacances avec mes parents. D'ailleurs, ils m'ont proposé de venir. Ah ouais, notre enfant, il se paye des super vacances. Là, il nous rembourse même pas un tout petit peu. Et on commence à nourrir des choses dans la famille, commence à y avoir des tensions, etc. On voit qu'il y a un esprit qui peut prendre la place et puis faire ce qu'il veut. Voilà. Cet esprit, c'est maman. Et qu'est-ce qui s'est passé quand mon père m'a dit, rembourse quand tu veux. La plupart du temps, les gens, ils attendent d'avoir la somme, si c'est 10 000 euros, j'attends d'avoir tout 10 000 euros, voilà, et je te les rembourse, papa, tiens. Est-ce que ça se passe? Ça se passe jamais. Ou alors, bam, on reçoit une prime de malade et ah, je devais 10 000 à mon père. Ça m'arrangeait pas trop, là, du coup. Bah si, tiens. Ça, c'est bien. Mais ça se passe pas comme ça. Du coup, on laisse la porte ouverte à l'esprit de maman. Et l'esprit de maman, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit, il trompe, il dit « Hey, mon gars, regarde dans la caisse à laquelle tu roules, là. » Ça, c'est... Alors, je dis pas que c'est forcément que maman, mais je pense que j'ai... Il y a quelque chose... Et c'était à l'insu de mes parents. Mes parents croyaient bien faire, mais ils ont un jour, je pourrais peut-être leur dire, ils ont pas bien fait pour moi. Pourquoi? Alors, attendez. Je vais nuancer. Si mon père m'avait dit, Luc, chaque mois, tu me dois 50 euros, ça va? Ah, papa, c'est un peu chaud. 40, ça marche, 40. Ça fait combien de mensualités? Ça fait 190 mensualités. En 2026, tu auras remboursé. Tu t'es engagé, on signe un contrat. Prends une feuille, t'écris. Est-ce que c'est valable de faire un contrat comme ça? Je l'ai fait, je l'ai déjà fait. C'est tout à fait valable. Qu'est-ce qu'on fait? On s'engage à rembourser, clairement, mon papa m'a donné, voilà, je lui dois, aucun problème. En plus, c'est mon papa, je lui fais confiance, c'est un homme bien, ok, je me mets sous l'esclavage de qui? Mon papa. C'est jouable ou pas? À vous de voir. Mais on se met sous l'esclavage de celui qui nous prête. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a des tensions qui peuvent venir dans les familles, le fils qui commence à se sentir coupable, il y a l'injustice. Vous vous souvenez, on a parlé de ça. Les liens d'injustice. L'injustice qui maman, il gère dans ce domaine. Et ça se transforme, la mayonnaise monte, les conflits familiaux montent, s'enveniment, etc. Et puis, on a les premiers schémas de division. Vous voyez comment ça peut venir très sournoisement. Un serpent, ça vient pas direct. Il vient comme ça, il tourne, il vient sur les côtés. Et puis, il attaque. Donc c'est des manières très subtiles que Diable a de détruire les familles, et ça peut passer par ça. Si vous prêtez, parents, je vous adresse la parole, si vous prêtez de l'argent à vos enfants, faites-le sous un contrat. Responsabilisez vos enfants, même si c'est des petites sommes, et c'est ce qu'on va voir avec l'éducation des enfants, parce que du coup, on ne les asservit pas à l'esprit de maman, on leur dit « Hey, le Seigneur t'appellera méchant si tu ne rembourses pas. Tu as envie d'être méchant ou pas ? Ce qui est réservé aux méchants, c'est quoi ? C'est ça, ça, ça et ça. » Donc, on ne va pas se mettre sous ça. Par contre, on va te prêter de l'argent, on va te sortir. Tu vas pouvoir te payer ça. Mais par contre, moi, je veux que tu t'engages derrière. Ah purée, je dois rembourser à mes parents, je vais peut-être faire un job. Je vais être actif, du coup, derrière. Et en fait, ça fait quoi ? Ça nous bénit. Ça nous bénit. C'est éducatif. Ça vous parle ? Ouais, on a vu que le système économique de ce monde, il exige en cas de dette un remboursement minimum, périodique. Donc il y a une somme, il y a un minimum, d'accord ? Parce que, ok, 1 euro sur 70 ans, non, c'est pas cool. Je crois que c'est pas un bon contrat. Il y a des bons contrats aussi à... Ou alors vous avez vraiment un papa cool. Mais par contre, vous avez une dette sur 70 ans, à vous de voir. Voilà. C'est dommage. Ok. Et effectivement, on a besoin d'être vraiment conscient de ce qu'on fait, parce qu'on peut ne pas se rendre vraiment compte. Ok. Et en fait, il y a une petite démarche en tant que parent qu'on peut faire, c'est surtout avant de prêter de l'argent. C'est dire, Seigneur, est-ce que tu veux que je prête de l'argent ? Il m'en demande, hey, fils, laisse-moi 5 heures dans la prière. Toi, va jeûner 40 jours et puis on en reparle. Non, vous voyez, je vais pas te donner la réponse tout de suite. On va vraiment prier. Si tu veux, on peut prier même ensemble, ok, en famille. Ça fait quoi ? Ça unit les liens, pardon. Ça unit les liens de la famille. Et en fait, Dieu va faire, hey, toi, le père, donne l'argent à ton fils. Il a bossé comme un fou, là. Au lieu de lui prêter, tu lui donnes. Et hop, plus d'esclavage, plus de dette, plus rien, plus de contrat. Fils, je n'aurais pas dû prier. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que Dieu va nous dire, prête. Qu'est-ce qui se passe quand on donne et que Dieu nous demande de donner ? Qu'est-ce qui se passe ? On est content, ok. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ? On reçoit, ça c'est la conséquence, ça vient après. On crédite notre compte céleste, ok. Est-ce qu'on est béni ? Oui, on est béni, on bénit notre fils, on est béni. Et un jour, quand on a fait un retrait, qu'est-ce qui se passe ? On fait un acte de foi, on prie et on peut recevoir. Pourquoi ? Parce qu'on a mis des ressources sur notre compte. C'est trop bon, non ? C'est une offrande. Est-ce qu'on a le droit de faire une offrande à nos enfants ? Non, c'est interdit, je crois, en Deutéronome. Ok, vous êtes d'accord que non ? Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et voilà, enfin, quand on prête, on établit les modalités, les conditions de remboursement, le calendrier précis avec la somme due. Et attention, j'ai envie de rajouter, enfin, les conséquences en cas de non-remboursement. D'accord ? C'est important de dire, tu me dois tant et tant, tu me le dois dans cette période-là. Salut ! De toute manière, il ne m'arrivera rien si je le fais, le contrat, il ne dit rien. Mais vous avez dans tous vos contrats, quand vous signez chez Orange, chez Buick, chez machin, si vous ne payez pas votre mensuel, on va vous taxer ça déjà. On va venir chez vous, on va vous prendre le meuble, la télé, la télécommande et tout ce qui va avec. Voilà. Et comme conséquence, peut-être que... je vais faire spirituel, mais demander à Dieu qu'il vous mette des conséquences. Tu dis, va voir Deutéronome... attendez voir. On va voir... Psaume 37, verset 21, et puis toi, mon fils, que j'ai enseigné dans la foi et que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, va voir ce qu'il dit de toi si tu fais pas ça. Bref, c'est un peu ironique, mais oui, je crois que si vraiment on fait un contrat, c'est que Peut-être c'est pas avec notre enfant. Peut-être que c'est pour un ami. Ok, il veut s'acheter une maison. J'ai 1 million sur le compte, prêt à donner à qui tu veux, Seigneur. Ben, j'ai un ami. Ok, je vais lui prêter. Il me dit, si tu rembourses pas, eh ben je peux peut-être faire venir les huissiers chez toi. Je peux peut-être demander à la banque. Tadana, et puis j'en sais rien. J'ai pas creusé toutes les conséquences. Je me suis plus attardé aux bonnes choses. Mais oui, important de les écrire. Si vous faites un contrat. On va voir qu'il y a une leçon. Ben, on est dans le conseil. La séance prochaine, c'est le conseil. Quand on fait toute chose dans le domaine financier, c'est très, très important d'avoir des conseillers. Donc, pourquoi pas demander, par exemple, à Courte, demander à nos pasteurs, demander à tous les personnes de ressources autour de nous. Tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre comme conséquence si je fais un contrat comme ça? Tu n'as pas expérimenté un truc? Ben, si, justement, je vais te donner le contrat tout fait. Ouais. Donc, simplement pour vous donner un peu des exemples, mais pour que Dieu veut vraiment qu'on se mette à l'œuvre pour rembourser nos dettes. C'est ça le truc qu'on doit retenir, c'est que si on en a, on doit les rembourser, sinon on est appelé des méchants. Et si jamais on a fait ça, vous sentez, ou les personnes qui nous écouteront sur les enregistrements, vous avez fait un emprunt envers quelqu'un, vous sentez que là, Dieu il dit, ah, je crois que là, moi je suis un méchant, d'après la parole de Dieu. Pour la voiture, je me suis posé la question. Vous avez peut-être envie de savoir la suite, mais même un jour, quand j'ai crashé la voiture, j'étais vraiment travaillé, parce que je me dis, waouh, j'ai appris que j'étais un méchant, je l'ai appris cet été en creusant la parole de Dieu, je me suis dit, oh punaise, je suis un méchant en fait, je n'ai pas remboursé mon père. Et en fait, quand j'ai crashé la voiture, mon père était vachement était désolé, il était content, j'avais rien. Il y a encore la trace sur l'autoroute, si vous voulez voir. Mais quand je passe à côté, c'est des souvenirs. C'est sur le pont en allant vers l'UGC, bref. Et en fait, mon père est venu me dépanner. En plus, il était sur Strasbourg. Il est jamais sur Strasbourg. Et là, il était sur Strasbourg. Je dis, papa, j'ai fait un accident. Mon coloc avait fait un accident le midi, c'était la journée des accidents. Et on a pris la voiture et on l'a rapatriée. On a mis 4 heures pour redescendre dans le Sungo chez nous. Et la voiture, elle est partie épave. J'avais pas d'assurance tout risque parce que mon père voulait économiser sur l'assurance. Donc il m'a pris une assurance vite fait. Une bonne assurance, une petite. On n'a pas eu de remboursement. Bref, catastrophe sur catastrophe. On a vendu pièce par pièce comme ça. Pendant des années, ça a duré. Mais mon père m'a dit, Luc, t'as plus besoin de nous rembourser, on efface la dette. Je fais, punaise, mon père, il n'est pas chrétien. Et il me montre un amour comme ça. J'ai pris conscience qu'après, je dis merci Seigneur vraiment pour mon père. Un jour, il va être touché par le Seigneur parce que ce que Dieu a fait sur la croix, il l'a fait pour moi comme ça. Mon père, il m'a montré un acte d'amour comme ça. Luc, tu me dois plus rien. Je vais aller rembourser, je crois, la moitié de la voiture. C'était 9 000 quelques, et je devais 4 000, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il m'a tout annulé. Et je me suis dit, je suis un méchant. Maintenant, en fait, à partir du moment où votre créancier vous dit, stop, Dieu m'a dit, t'as plus besoin de me payer, je te fais grâce. Grâce. Wow. S'il est pas chrétien, il dit, mais mec, je vais te montrer que t'as appliqué un principe de la Bible. T'aimerais pas connaître Jésus parce que c'est lui qui a inventé ce que tu viens de faire. Bon, bref. Et si je dis des trucs sérieux et puis parfois un peu moins sérieux, mais vraiment, oui, peut-être que Dieu, en plein milieu d'un emprunt, il va le faire pour vous. Votre créancier va dire, lui, j'annule la dette maintenant, c'est fini, il n'y a plus besoin de me rembourser, j'ai assez de fric, j'en sais rien, il peut se passer des choses. Quand on se met vraiment devant Dieu et qu'il y a des choses qui se passent, il y a des miracles qui se passent, je veux dire. Donc mon père m'a fait ça. On n'est plus appelé un méchant. On est gracié. Là, c'est après, va te mettre à genoux devant Dieu, va louer, le remercier et dire, ok Seigneur, t'as fait grâce. Oh là là, au travers de mon père en plus qui ne te connaît pas. Waouh. Comme ça, je prenais conscience. Ça me touche en plus de vous le dire parce que ça passe par ma bouche, mes oreilles l'entendent et je me dis, wow, c'est bon d'entendre encore et encore et encore. Mais en tout cas, oui, je crois que... Le terme méchant, c'est pas juste c'est un petit méchant. C'est un vrai terme. Dieu nous exhorte vraiment à ne pas être des méchants. Et aller voir, par exemple, celui à qui on doit de l'argent, si maintenant on n'a pas défini de contrat, on dit hey, « Hé, c'est quoi lui? Il vient vers moi, il me donne de l'argent, il dit « Écoute, je te demande pardon. » Quoi, il me demande pardon? Pourquoi? Confessez que vous n'avez pas fait un emprunt auprès de lui en pensant pouvoir rembourser, parce que quand on ne fait pas de contrat, on se dit « Ouais, peut-être qu'il va, il va plus s'en souvenir. » Ou peut-être c'est un petit vieux et tout ça, il va... Enfin, vous voyez, hein, j'ai déjà entendu tellement d'histoires. Pardon, pardon, parce que tu m'as prêté de l'argent et j'avais déjà l'intention de ne pas te rembourser ou de te rembourser comme je pouvais et tout ça. J'ai un Dieu qui n'aime pas ça. Pour l'honorer, je te demande pardon. Waouh, c'est quoi ton Dieu? Et j'aimerais te proposer, regarde, hier j'ai bûché sur un plan de remboursement, je te le propose, t'es d'accord ou pas? Fais voir. Waouh, tu t'engages. J'ai entendu un témoignage qu'un Africain, il devait une grosse, grosse somme d'argent, mais il a dit « je peux que donner un dollar ». Il a remboursé un dollar comme il pouvait. Il s'est raqué, mais pour un dollar, il s'est raqué. Les créanciers, ils ont dit, ce gars-là, il est fidèle avec un dollar. Ils l'ont appelé, ils ont dit, t'as remboursé tant et tant, stop maintenant, on te fait grâce. Sois béni. Enfin, je n'en sais rien comme ils ont dit. Voilà. Et puis, c'était bon. En fait, quand on s'aligne avec ce que Dieu veut, il peut se passer un miracle. Quand Dieu veut aussi. Et ça, je trouve ça trop cool. Et vous prenez des notes, j'aimerais que vous preniez la note suivante. L'esprit de Mammon va faire en sorte que vous portiez votre attention sur ce que vous n'avez pas et sur ce que vous ne pouvez pas faire. Quand on a un emprunt, souvent on se dit « Ah, punaise, j'ai pas assez d'argent. Ah, de toute manière, oh, et ça, j'ai pas, ça me manque. Et ça, oh, ici, oh là 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 là. » Et finalement, on met tout de côté et on va se morfondre, on commence à avoir du stress. Tous les trucs qu'on a vus avant. Et ça, c'est Mammon qui est en train de faire ça. Alors, la phrase, c'est « L'esprit de Mammon va faire en sorte que vous portiez votre attention, qu'on met le focus sur ce qu'on n'a pas, plutôt et sur ce qu'on n'a pas et sur ce qu'on ne peut pas faire. » Ça, c'est ce que Mammon va faire. Mais il est primordial qu'on se recentre. On peut toujours faire quelque chose. On a toujours quelque chose. Un minimum. On doit se recentrer sur ce qu'on a et sur ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça qu'on a besoin des conseils, on a besoin d'avoir des amis, une famille chrétienne qui dit hey, « Eh oh, attends, t'es dans la galère, t'as des emprunts, tire-larigot, t'as contracté là, là, là et là, ta carte de crédit, tu l'utilises comme un BOU 2FON, voilà. » Ok, donc du coup... Voilà. Mais viens, maintenant, on va voir qu'est-ce que tu peux faire. Et c'est jamais seul qu'on arrive à sortir des emprunts ou des choses. Enfin, jamais. Je nuance, mais souvent, le diable va nous mettre à part et va nous dire hein, tout seul, si j'arrive à l'écarter, de toute manière, il a honte, il n'a pas trop envie de se mêler aux autres. Si les autres le savent, comme les autres le savent, hein, il est bien sous la honte, etc. Quand vous commencez à faire ce que vous pouvez faire naturellement, Dieu est libre de faire ce qu'il peut le faire surnaturellement. Quand nous, on fait ce qu'on peut dans notre naturel, bah, j'en sais rien, qu'est-ce que je peux faire? Dieu, après, est capable de faire le surnaturel. Je passerai au cinquième jour directement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais pour illustrer ce slogan, cette phrase phare, cette vérité, je l'appuie avec 2 Rois 4, versets 1 à 7. Et on ne va pas la lire, mais vous la connaissez, on l'a vu avec Courte Élise, la vidéo de la veuve qui... qui reçoit. Elle a dû prendre ce qu'elle avait. Et en fait, le prophète, Dieu, le Saint-Esprit nous dit arrête de penser à ce que tu n'as pas, arrête de penser à des choses qui t'accablent. Stop, ok, t'as fait, maintenant on va régler le problème. Pense, qu'est-ce que tu as? Et chacun d'entre nous, on a quelque chose. C'est. J'aime trop parce que Dieu, en plus, il a un principe de désendettement. Si on se met dans les dettes, lui, il a prévu la solution. pas dire « Oh punaise, pourquoi il a fait ça ? Je ne sais même pas quoi lui proposer. » La femme a demandé conseil à un homme de Dieu. Elle a imploré Dieu pour recevoir une aide et des directives. Et elle a utilisé les ressources qui étaient disponibles. Trois clés. Demander conseil, prier et utiliser les ressources disponibles. Qu'est-ce qu'on a ? Ça peut être des ressources naturelles, ça peut être un petit peu d'argent, ça peut être quand on utilise Dieu est créateur et le seul créateur. On peut rien créer qui n'existe pas. Dieu est le seul qui peut dire ça n'a jamais existé, je peux le faire. Mais on a toujours quelque chose que Dieu peut utiliser pour créer, pour multiplier, pour développer, pour voilà. Alors on va le voir ensemble. Ça peut être effectivement des dons, des talents. C'est justement, on dirait que tu as lu mes notes. C'est justement ça. Ce que Dieu peut utiliser, c'est, et j'ai passé les quelques mois derniers à me poser réellement cette question. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux utiliser ? Je vais me servir de tes talents. Waouh, c'est quoi tes talents ? J'ai fait une liste. Ok. Batterie. Oh, stop. Fais déjà, stop. Voilà. Batterie, comment tu peux développer et tout. Qu'est-ce que tu peux apporter ? Alors, j'ai commencé à écrire des articles sur mon expérience de vie de batteur, etc. Je dis, vous allez en voir des nouvelles bientôt parce que ça va sortir. Mais, Seigneur, je vais essayer. Je vais vous montrer. Je vais voir avec vous hein, si ça marche, entre guillemets. C'est pas des articles pour Le Monde, mais bref. Mais oui, pourquoi pas créer une petite entreprise ? Pourquoi pas rendre service à quelqu'un régulièrement ? Ah, pas au black, mais de façon légale. Mais vous voyez, on peut faire des petites choses. Dieu fait « Oh !» Lui, il se met en action. Lui, il utilise un tout petit peu. Je vais lui ouvrir maintenant 100 000 portes devant lui et il va pouvoir rembourser. Oh, punaise ! Vous voyez, il y a des petites choses à faire. Un talent, on a tous un talent. Dieu n'a pas... Quand vous êtes sorti du ventre de votre maman, il y avait des talents déjà prévus pour vous. Il y avait des choses. Bam, lui, il a ça déjà. Bam, c'est sur lui. C'est à nous de les découvrir, de les développer. Et Dieu attend un retour sur investissement de ces talents-là. Bref. L'autre fois, je disais, le miracle est dans votre maison. Et je crois que oui, on a tous des matières, de la matière. Matière, ça peut être des idées. Ça peut être des talents courts. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a dit, Seigneur, j'ai besoin d'argent à un moment. Il a témoigné, je crois. Et comme il était dans l'immobilier, il y a un de ses clients ou un gars qu'il connaissait qui l'a appelé et dit, Kurt, tu pourrais venir à l'agence, j'aurais besoin d'un de tes conseils. Il prie et Dieu lui donne une idée de génie sur le chemin. Il arrive au bureau, le gars lui montre le plan. Qu'est-ce que tu ferais, Kurt ? Écoute, moi, je te propose de faire ça, 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 ça. Bim, il lui dévoile le plan qu'il venait de recevoir 5 minutes avant dans la voiture ou en prière avec sa femme. C'était réglé. Et le gars lui dit, mais c'est une génie, mais t'as eu ça d'où et tout, etc. Fais-moi une facture de 20 000 pour toi. Et bam, et ça tombe. Mais est-ce que vous ne croyez pas que Dieu il peut faire ça avec nous ? Et je peux vous en raconter des témoignages où Dieu, il donne, il peut donner la nuit, il peut donner le jour, il peut donner au travers de quelqu'un, au travers d'un non-chrétien, il vous donne l'idée du siècle, enfin j'en sais rien. Mais il le fait. Il le fait et ça vous sort des problèmes. Et c'est comme ça que Dieu nous aide, nous bénit, nous encourage. Mais attention, dans le passage, et ça j'aimerais le souligner, dans le passage, donc dans Deux Rois, on voit que la femme, c'est la femme et les enfants qui sont impliqués dans le miracle. Il y a une clé, et attention, il ne faut surtout pas que ça dépende de la famille, que ça divise la famille au lieu de l'unir, etc. Si vous avez un job qui vous prend 8 heures par jour pour vous faire plus de bénéfices parce que vous avez des dettes, vous prenez un deuxième job qui vous prend de 5 heures à 8 heures le soir. Et ensuite, vous dites, ah, c'est pas assez. Un troisième job de 23 heures à 1 heure du mat. Quand c'est que vous allez voir votre famille ? Quand c'est que vous allez vous reposer ? Vous allez être irritable ? Je crois que c'est pas la bonne solution. Ça s'étudie, on prie pour, on demande le feu vert de Dieu Et on voit ce qu'il peut, d'accord ? Parce qu'il peut faire avec peu de choses beaucoup. Et nous, on veut faire beaucoup avec beaucoup de choses. Et parfois, c'est à notre dépens. Et on ne construit pas, on détruit. On se détruit soi-même, on détruit ses proches, sa famille, quand on a une famille, etc. Donc, dans ce passage, on voit que Dieu implique les enfants. À un moment, on peut se dire, bah, OK, on va mettre les enfants dans la famille. Hier, au lycée où je travaille, j'ai deux ouvriers peintres qui refont les salles du lycée qui m'ont dit, on bosse dans une boîte, et les gars, ils aiment trop dire, troisième génération, grand-père, père, et maintenant c'est fille. Trois générations. Ah ouais, c'est familial. Ouais, et puis c'est des patrons, ils sont trop bien, ils payent à fond. On a des vacances, on a une voiture, ils nous mettent à l'aise. Je fais, oh, ils sont chrétiens, ces patrons-là, c'est pas possible parce que j'aime trop. Et c'est les ouvriers qui disent ça. Ils disent, nous, on négocie pas, on demande pas des augmentations, ils nous augmentent chaque fin d'année, on n'a jamais aucun problème. Je fais, waouh, ça c'est bon ça. Moi, je veux aussi être un patron comme ça. Et je me dis, bah tiens, père, enfin grand-père, père, fille, ils ont été tous dans la famille. Il dit, la fille, on lui apprend rien du tout. Elle gère en peinture plus que... Je fais, mais c'est bon ça. Waouh. Quand tu vas monter une activité, si tu mets tes enfants avec, peut-être c'est tes enfants plus tard qui vont reprendre l'activité. Et ça va perdurer. Ça va être une vraie bénédiction, un héritage. On va le voir dans les leçons suivantes. Ça vous parle ? OK. On est bientôt au bout, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Sixième jour, je prends plutôt comme un peu une... Je vais avancer, mais il y a quand même quelque chose de pas mal à sortir de cette étude. Proverbe 22, versets 26 à 27. Ne te rends pas responsable des dettes d'autrui en tapant dans la main de quelqu'un. Si tu n'as pas de quoi payer, on te retirera même ton propre lit. Waouh, proverbe. Proverbe 17, verset 18, l'homme dépourvu de bon sens prend des engagements. Il se porte garant pour son prochain. On voit là, dans ces versets, se porter garant, ce n'est pas une bonne chose. Pour un emprunt, attention, ça peut vous porter préjudice. Donc ces versets nous encouragent. On cautionne pas. Ne faites pas ça. Dites OK, c'est peut-être pas une bonne chose. Pour un emprunt, pour un loyer, pour aider vos enfants, je nuance à étudier avec Dieu. Mais attention, si vous dites OK, check, c'est ce qu'il dit, ne tape pas dans la main. Et ça existait d'ailleurs déjà le check à l'époque. C'est cool. Mais ne faites pas ça. Proverbe 6, versets 1 à 5. Mon fils, t'es-tu rendu responsable de la dette d'un ami en tapant dans la main d'un autre homme ? T'es-tu engagé par tes paroles et lié par tes promesses à ce sujet ? Si oui, si t'as fait ça, tu te trouves au pouvoir du créancier et il faut t'en libérer. Va le voir, supplie-le. Ça veut pas dire juste « s'il te plaît ». Si tu le supplies, tu lui arraches la veste. Et insiste pour te dégager. Ne t'accorde aucun repos et ne ferme pas l'œil avant d'y être parvenu. Rends-toi libre. Imite la gazelle et l'oiseau qui réussissent à s'échapper du piège où ils ont été pris. Est-ce que vous avez déjà vu un oiseau dans un piège, il se débat. Ça fait mal au cœur, mais c'est l'image pour nous dire que ceux qui font ça, dégagez-vous de cette situation où vous êtes aux griffes, vous êtes dans un piège, pardon. Donc, une personne qui a fait ça, qu'est-ce qu'elle devrait essayer de faire ? C'est justement de chercher à nous en libérer, d'aller voir la personne, dire « Écoute, je me suis porté garant, c'était vraiment pas cool, c'était surtout pas bien. » Et avec diligence, de façon humble, c'est pas si tu le fais pas, si tu m'empêches, je te défonce, ok ? Parce que ça risque de pas marcher. Mais... selon le cœur de Dieu, et de dire OK, je crois qu'on a fait une erreur. Mais vous savez quoi ? Ça libère la personne aussi, spirituellement. Vu que Dieu le dit dans sa parole, ne le fais pas. C'est pas juste pour toi. Je crois qu'il y a quelque chose, un bénéfice aussi pour la personne. dit OK. Pourquoi ? Parce que quand on met les, quand on a un garant et qu'on n'honore pas notre, on commence à se dire ah punaise, je l'ai mis dans la panade et il m'en veut, je crois. Il doit de l'argent à ma place. Oh là là, et il y a un conflit. Donc finalement, on s'évite les conflits dans les deux sens. OK. Donc c'est tout à fait applicable aujourd'hui. On voit que Proverbe, oh, c'est, ça parle. Oui, c'est applicable aujourd'hui. On va finir avec ça. On n'a pas beaucoup dépassé, c'est cool. Avec 9 clés, 9 étapes pratiques pour traiter ses dettes. Vous aimez bien les étapes pratiques. On va avoir juste 9 étapes pratiques et je vais vous les citer. Pour traiter ses dettes. Étape numéro 1, se repentir de sa méchanceté si on a emprunté sans rembourser. Déjà, c'est de prendre conscience qu'on est des méchants. Si on ne l'a pas fait, sans rembourser. Donc, de se repentir de sa méchanceté, c'est l'étape numéro 1. Prendre conscience, être devant Dieu, dire Seigneur, ben, se repentir, ça ne veut pas dire se mettre des coups de fouet. Comme on peut parfois le percevoir dans la mentalité de certaines personnes, se repentir, le mot grec de se repentir, ça veut dire changer de direction, de se mettre à l'opposé de ce qu'on pensait avant. Vous voyez, c'est complètement c'est le premier, se repentir de sa méchanceté. C'est simplement pour expliquer se repentir, c'est je change de direction, Seigneur, je veux plus être un méchant, je veux être tout l'opposé, un gérant fidèle. 2. Changer le centre de son attention, c'est ce qu'on a dit. Focus sur ce qu'on a et sur ce qu'on peut faire. Étape 3, faire le... Vous pouvez mettre des mots clés. Focus sur ce qu'on a, focus sur ce qu'on peut faire. Vous aurez l'enregistrement si jamais, ça vous encouragera à le réécouter. Faire le calcul de son cercle fermé ou budget. Ouah, c'est quoi ça? Ça, on va le voir la leçon suivante. Donc, faire le calcul de son cercle fermé ou budget. Voir la leçon suivante. Étape 4, faire une liste de tous les créanciers. Donc, ceux à qui on doit de l'argent, on prend un papier et on fait une liste. On dit OK. Lui, 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 lui. Si vous avez plus que dit lui, venez me voir, je prie pour vous. Mais très sérieusement, vous faites votre liste. Alors, les impôts, le trésor public, etc., hein, vous oubliez, vous ne mettez pas dessus. Oui, on est d'accord. Enfin, dans le sens que si c'est pour votre taxe d'habitation, si c'est... Bon, ça peut rentrer, effectivement, si vous avez une amende. Si vous êtes pris un PV et que vous ne l'avez jamais remboursé, vous allez voir la tête qu'ils vont faire les gens quand vous allez là-bas et dites « Ça fait 6 mois que je n'ai pas remboursé, je vous demande pardon. » Oh, première personne qui me demande pardon. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Voilà. Mais je vous dis, ça fait la différence quand on s'humilie, Dieu il nous honore. Et, étape 5, définir un montant disponible dans notre budget pour rembourser tous les créanciers. Dieu n'a pas dit, commence déjà par rembourser le premier. Enfin, tu rembourses, allez, 1/5 ou allez, 2/5 et puis le reste on fait grâce. Non, non, c'est tous les créanciers. Donc, j'ai combien et qu'est-ce que je dois ? Maintenant, je divise et je regarde, je vais leur proposer. Ben, je dois 10 euros à 10 créanciers, ben, je vais leur proposer 1 euro à chacun. Et on va voir s'ils sont d'accord. S'ils sont d'accord, tant mieux. Sinon, on trouve un autre contrat. 6, prendre contact avec chaque créancier, faire une proposition de remboursement mensuelle et obtenir son accord. Si vous n'obtenez pas l'accord, vous restez à l'étape 6, et vous cherchez une façon de le faire pour vous dégager, pour que vous soyez en accord, pour qu'il fasse signature sur le document. Donc, le 6, c'est prendre contact avec chaque créancier, faire une proposition de remboursement mensuel, pas annuel, ok, mensuel. On rembourse par mois ou alors par jour si vous voulez, mais pas voilà. On se donne vraiment une rigueur. Si la banque elle demande par mois, alors c'est le minimum, c'est par mois. Payer l'étape 7, mensuellement le montant fixé à chaque créancier. Ah purée, là il y a des vacances. Je pourrais peut-être sauter un. Il va rien dire. Si, si. Lui va peut-être rien dire, mais Dieu y voit. Payez mensuellement le montant fixé à chaque créancier. Honorez votre contrat, en gros. J'aime trop l'étape 8. L'étape 8, cherchez des moyens pour donner. Donner autour de vous. Donc, pratiquez la générosité. Vous pouvez mettre « pratiquez la générosité » à partir des surplus, donc quantité d'argent que vous avez en plus, pour approvisionner le compte céleste. C'est très important. Vous remboursez vos dettes, d'accord, mais vous gardez un petit montant pour donner quoi ? J'ai besoin pour rembourser, mais je vais encore donner. J'aime trop les principes de Dieu. Mais oui, il faut penser au compte céleste. Si vous approvisionnez votre compte céleste, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez béni quelqu'un et un jour Dieu dit « Ok, tu as des dettes, maintenant on va s'en occuper. Ton compte, là, regarde, il est... » Dieu multiplie par 30, par 60 ou par 100. C'est les multiplicateurs qu'on voit. Vous avez le droit, pendant que si vous faites ce que Dieu vous demande, vous êtes en position d'autorité pour dire « Seigneur, j'ai fait tout ce que tu me demandes. Je te demande que tu multiplies fois 100, le maximum, le montant, le multiplicateur max, pas 30. Je te demande, moi je te prie pour 100. Et si vous avez mis un petit peu sur votre compte céleste, il y aura pas mal. Minimum, ouais, à vous de faire le calcul. Prenez le micro s'il vous plaît, ouais. Donc le 8, c'est... Tout à fait. Alors, attendez, prenez chacun le micro. Alors, oui, Elisabeth.
Ouais, quand tu parles de donner, ça peut être la dîme.
Mais carrément. Alors, attendez, dans votre budget, on va le voir la semaine prochaine. Quand vous établissez votre budget, il y a des principes. On l'a vu la semaine dernière, vous ne remboursez pas vos créanciers et dites « Seigneur, ce que je te devais, je le donne aux créanciers. » C'est « Seigneur, je te mets à l'honneur en premier. » Et ensuite, qu'est-ce que j'ai encore ? Là, les créanciers, « Ah, peut-être c'est ce mois-ci, les vacances. Ah, les sorties. Ah, les habits. Ah oui. Bah, je vais peut-être d'abord honorer ta parole, Seigneur, et je vais faire ce qui coûte. » Ok. Vous voyez ? Mais oui, on a dit que la dîme permet que les écluses soient ouvertes. Ça ne fait rien tomber. Ça fait ouvrir les écluses. Si vous remboursez vos dettes, vous ne donnez pas la dîme, les écluses sont fermées, vous faites un don, Seigneur, t'as fait fois 100, maintenant je veux recevoir. Ah ben je suis désolé, les portes elles sont fermées. Enfin, c'est ce qu'on a vu. D'accord ? C'était la parole de Dieu. Vas-y, Ezekiel.
Pour l'étape 8, quand tu parles de pratiquer la générosité à partir des surplus, c'est les surplus qui viennent de quoi ? Les surplus de quoi ?
C'est...
Non, mais je veux dire... Non, mais...
Très bonne question.
Ouais.
Le terme surplus, on va le voir la semaine prochaine aussi. C'est simplement, une fois que vous avez payé toutes vos factures, vous avez un salaire, vous avez payé toutes vos factures, il reste du surplus.
C'est un bénéfice, quoi.
C'est les économies. Le surplus, effectivement, après, quelqu'un peut vous bénir. Dieu voit que vous êtes en accord avec sa parole. Il va dire, tiens, je vais utiliser telle et telle personne pour le bénir. Et vous allez recevoir des choses. Ça peut être un bénéfice. Tiens, je reçois 100 euros, mais je dois 50 euros. Voilà, tu peux faire ton pas de foi.
En gros, c'est le net que tu as entre les mains à la fin de tous les...
Voilà.
Ah, voilà.
Attends-toi à ce que je te bloque sur un terme technique dès que tu me parles pas technique. Ok, On va juste voir le dernier. C'est ce que Ézéchiel a un petit peu introduit, le terme 9, l'étape 9, s'attendre à ce que Dieu agisse de façon surnaturelle par une surabondance financière pour réduire les dettes rapidement. Donc, on s'attend à Dieu, c'est avoir la foi que Dieu agisse, vous pouvez mettre ce que vous voulez, s'attendre à ce que Dieu agisse de façon surnaturelle par une surabondance financière pour réduire les dettes rapidement. Si vous avez des dettes, vous recevez des dons, on vous bénit, vous trouvez de l'argent par terre, vous avez de l'argent qui tombe du ciel. J'ai déjà entendu des témoignages des gens qui trouvaient des lingots d'or dans leur cuisinière parce que voilà, les dans le passé, ils ont carrément oublié de... Bref, Dieu veut vraiment, vraiment nous bénir. Ok, c'est si vous avez des dettes et que vous êtes béni financièrement, votre raisonnement doit être de rembourser vos dettes, pas de profiter. Vous avez le droit de profiter quand vous avez honoré la parole de Dieu et de rembourser. Avec Mathilde, on rembourse pour l'achat de notre voiture. J'aurais bien aimé avoir beaucoup plus d'explications avant qu'on fasse l'emprunt pour la voiture, mais on avait prié, on a dit Seigneur. On fait ça si c'est ta volonté. On a eu le feu vert. C'est là où je vous disais, c'est pas forcément un péché, mais on a vu que ça demande une responsabilité de remboursement. Mais on s'empêche pas de s'acheter un resto de temps en temps. Mais on a un programme de remboursement. On s'est engagé et puis on s'y tient. Et si on peut pas se permettre de faire un ciné, etc. parce qu'on a des dettes à rembourser, on fera ça. Vous voyez? Ok. Question.
Alors, c'est une question que je me pose depuis que j'ai vu le début du thème du sujet. Est-ce qu'il faut emprunter pour un achat immobilier? Ah. Et toi, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, ou qu'est-ce que tu
je vais
penses
faire? Ah, ça, c'est bon. Très bonne question. Il y a des suggestions. Moi, je dis, ça dépend. Ça dépend. Enfin, si vous voulez me lancer sur le sujet, pour ceux qui nous écoutent sur l'enregistrement, je vais mettre un petit comme dans les séries policières et tout. Venez m'en parler perso et je vous répondrai. Je ne dirai pas au micro, pas parce que c'est un sujet tabou. C'est simplement que pour honorer le timing des personnes ce soir, il est 21h15, mais j'ai une réponse. Et on en a déjà parlé dans certains épisodes, et c'est là où je vous renvoie, c'est une très bonne question, c'est là où je vous renvoie aux deux axes de réflexion que je vous ai donnés, avec Judas et avec votre Père Céleste. Mon raisonnement s'est fait à ce moment-là, quand j'ai imaginé à investir pour une maison, je dis moi tout le monde emprunte à la banque de l'argent pour acheter une maison. Est-ce que vous voulez être tout le monde ou est-ce que vous avez médité la parole de Dieu? Et à mon avis, il y a des clés que chaque chrétien peut expérimenter. Donc mettre en pratique et expérimenter. Donc c'est là où on en parlera en privé. Je voudrais. Est-ce que ça va pour vous? On a fini le thème. Si vous avez des questions, assez rapidement, je veux bien y répondre. Pour celles et ceux qui voudraient partir parce que vous avez quelque chose, sentez-vous libre. Donc, pas de questions, c'était super clair. Cool. J'aimerais prier et pour que tout ça soit... Ouais, si tu veux bien prendre le micro, oui.
Par exemple, acheter un bien immobilier, par exemple un studio, et puis le mettre à l'investissement, quoi, le mettre à louer, et puis ça, de sorte que le loyer rembourse tout, les assurances, le crédit et tout. Bref, ça ne coûte pas un centime. Je trouve ça, c'est un bon plan.
Hein. Oui.
Voilà, on n'a pas
ça
de dette en fait.
Ça s'autofinance, quoi.
Voilà.
Ouais. Pas de soucis. Je trouve qu'il y a, Il y a des techniques que Dieu va nous donner pour générer des fonds, pour nous bénir. Parce que des investissements immobiliers comme ça, oui, sur du long terme, bah, quelque part, on va rembourser. Mais au bout d'un moment, on ne rembourse plus. On profite, on reçoit. Ça génère des finances. Et je crois que Dieu n'est pas le Dieu du juste assez. On va le voir la semaine prochaine. Il est le Dieu de la surabondance. Okay, il ne veut pas juste qu'on paye nos factures. Je crois qu'il veut qu'on ait à gérer. Et là, on est en train de mettre plein de principes en place pour qu'après viennent dessus des conséquences. J'aime. Ça marche pour vous ? Allez, je prie. Seigneur, merci encore pour cette soirée. J'ai trouvé que c'était édifiant, Seigneur. Et tu m'as encore parlé, tu m'as fait du bien. Et je crois que ça a fait du bien ce soir. Alors à toi toute la gloire, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Et je te demande encore par le Saint-Esprit de venir mettre le doigt et de presser, de poser sur nos cœurs fortement, Seigneur, les étapes, là où tu veux nous emmener chacun personnellement, parce qu'on est... On est tous dans un parcours. J'aimerais te demander, Seigneur, que toi qui nous vois de ton ciel, qui connais toutes choses, eh bien, tu sois celui qui nous enseigne encore. Et amène-nous encore dans les prochaines sessions avec autant d'enthousiasme et avec le feu, Seigneur, parce qu'on veut connaître plus de ta parole, on veut connaître des secrets, on veut connaître des principes qui vont nous amener dans la liberté, celle que tu as pour tes enfants, Seigneur. Et on ne sera pas juste libre, on sera des outils, des instruments dans ta main, Seigneur, pour être des bénédictions pour le monde entier, Seigneur. Alors qu'on va dans des temps qui sont plus resserrés, qui sont difficiles, Seigneur, économiquement, c'est ta parole qui nous l'annonce. Je crois que tes enfants vont être une lumière, c'est ce que j'apprends, c'est ce que je crois personnellement. Et je veux, Seigneur, amener tous mes frères et sœurs avec. Et je veux te demander, Seigneur, de te servir encore de moi avec puissance et que toute la gloire te revienne. Merci de raccompagner chacun pour vivre un super week-end, Seigneur. Que tu puisses aussi donner du temps, de la disponibilité à chacun pour pouvoir creuser cette formation, ce parcours et qu'on en tire vraiment une réelle utilité, un bénéfice, une part, Seigneur, que tu veux nous donner, Seigneur. Moi, je prie pour des changements, Seigneur. On veut voir des mentalités être renversées. On veut voir des raisonnements être bouleversés, Seigneur. Fais-le encore, Seigneur, au nom de Jésus. Et ouais, sers-toi de cette formation encore pour nous amener plus loin en relation avec toi, Seigneur. C'est pour le salut de notre âme, c'est pour notre cœur, c'est pour notre précieuse condition d'enfant de Dieu que tu nous appelles à faire ça. Béni soit ton nom. Amen. Cool. Ok, donc merci d'être venu. Merci. Je pensais qu'on serait vraiment un peu moins. J'avais juste une dernière question. J'avais promis qu'on en parlerait. Est-ce que le groupe de prière fonctionne? Est-ce que vous avez été contacté? Je sais que oui. Je sais que non. Dans certains cas, on va. Sachez qu'en tout cas, c'est prévu. Vous êtes chacun dans un petit groupe de prière avec un entre guillemets leader qui prendra soin de vous, qui va vous coacher, qui va vous leader à envoyer des messages vers notre Père céleste. Et si ça n'a pas été fait, ça va venir. Vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir donner tous vos sujets. Et si c'est déjà fait, ben continuez, c'est super. Est-ce que ça répondait à ta question aussi, Elisabeth ? Tu verras. Ok. Alors. Ah oui, une dernière info, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que c'est important. La prochaine date, le prochain rendez-vous, c'est le mercredi. La semaine prochaine, c'est libre, il n'y a pas de formation, c'est le mercredi suivant, d'accord ? C'est dans 10 jours. Je vous le rappellerai par email, mais c'est le 22 octobre. Novembre, pardon. Novembre. Le 22 novembre, c'est un mercredi soir. On commencera à 19h et jusqu'à 21h. Et on verra ce que c'est un cercle fermé, la notion de cercle. Ça va être excellent. Il y a des bonnes choses qui sont... Là, ça va être très, très, très pratique. Donc, venez nombreux et puis soyez bénis.